commencer ce conseil municipal avec un ordre du jour un petit peu chargé, donc raison de plus pour commencer à l'heure. Je vais procéder, comme d'habitude, à l'appel. Monsieur Olivier Bonduel, Madame Marie-France Martin-Baga, Monsieur Marc Lerouzic Pouvoir, Monsieur Bonduel, Madame Chris Lamandé, Monsieur Jean-Yves de Ripper, Madame Janine Le Golvan, Madame Françoise Le Pennec, Monsieur Charles Bietri pour l'instant est absent, Madame Marie-Yvonne Belley, Monsieur Philippe Audeau, Madame Catherine Isoard, Monsieur Patrick Lotodé, Madame Christine Desjardins, Monsieur Michel Durand, Madame Morgane Petit, absente pour l'instant, Monsieur Gérard Marc-Albin, Madame Karine Le Déveat, absente pour le moment, je ne l'ai pas vue. Monsieur Hervé Ledonnant m'a signalé qu'il était retenu dans les bouchons, il ne devrait pas tarder à arriver. Madame Monique Thomas est absente. Madame Armelle Moreau, Monsieur Jean-Luc Servet, qui a une contrainte jusqu'à vers 20h15. On essaiera de terminer le conseil avant. Et donc, il a un pouvoir au maire si d'aventure il nous quitte. Madame Nadine Rouet, Monsieur Pascal Lejean, Monsieur Loïc Oudois, Madame Sylvie Robineau, Monsieur Paul Chapelle, Monsieur Olivier Lepic, présent. Nous avons donc le quorum pour délibérer. Je propose de désigner Madame Françoise Le Pennec comme secrétaire de séance, si elle l'accepte. Merci Françoise. Avant de démarrer ce conseil municipal, j'aimerais très rapidement rendre hommage à quelqu'un dont il s'agit ce soir du dernier conseil municipal. C'est Anne Yvonne Le Goff qui va prendre comme qui va prendre comme veut l'usage une retraite bien méritée. Et je voulais juste simplement dire que Anne Yvonne incarne pour moi, parce que j'ai été adjoint aux finances, incarne pour moi toute la noblesse de la fonction publique territoriale. C'est à la fois, ça a été à la fois, et elle est toujours, parce qu'elle va prendre sa retraite dans quelques temps, une fonctionnaire extrêmement compétente, véritable mémoire financière de la commune. Et je pense que tous les adjoints aux finances qui se sont succédés au cours des dernières années ont été très largement aidés dans leurs tâches. Et je ne pense pas que Pascal démentira cela. Et donc, voilà, Pascal va être orphelin. Et on va être beaucoup à être orphelin parce qu'à Yvonne, vraiment, on aura l'occasion de célébrer ça, évidemment, hein, d'autres endroits. Mais je tenais à le dire devant l'ensemble du conseil municipal. Bonne retraite et merci pour tout ce que tu as fait pour la commune dans cette longue carrière. Voilà, je pense qu'on peut même l'applaudir. Enfin, moi, je l'applaudis. Alors, on va un petit peu changer l'ordre du jour du conseil municipal. On va commencer, si vous le voulez bien, par le renforcement du trait de côte après les décisions du maire, parce que nous avons la chance d'avoir nos deux experts d'Artelia qui sont là. Ils sont, comme nous, en week-end. Et donc, ça leur permettra de reprendre la route un petit peu plus tôt pour Nantes. Comment ? Oui, ce sont des experts. Ils sont ingénieurs dans un cabinet d'hydrologie, donc ce sont des experts de la question. En tout cas, plus que moi, en tout cas. Donc, on va d'abord commencer par l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 20 octobre 2017. Est-ce qu'il y a des questions sur cette... Non ? Bon, je pense que maintenant, effectivement, avec les enregistrements, c'est assez fidèlement retranscrit. Je vous remercie. Il est donc adopté à l'unanimité. Je sollicite évidemment vos questions sur les comptes rendus des décisions du maire, hein, qui portent sur les décisions de 145 à 160. Et donc, j'imagine qu'il y a des questions sur ces décisions du maire.
Monsieur... Sur le dernier compte rendu là, du PV, là, c'est pas très fidèle, les enregistrements, là, la réécriture... des enregistrements.
Ah oui. Bon ?
Ouais, il me semblait que j'avais sorti une expression elle n'a pas été reprise dans le compte rendu.
C'était quoi cette expression ?
Oh, je ne me souviens plus. Mais faudrait...
On regardera sur les enregistrements.
C'est une expression qui avait été reprise dans la presse. Je ne la retrouve pas, là.
Ah oui, je pense que la complexité de l'adjectif a peut-être empêché effectivement les gens qui...
Mais la presse l'a quand même reprise, donc c'est que...
Ah mais on a une presse d'expérience, monsieur Bonduel. Pas d'autres remarques ? Merci. Donc on passe, et on était passé au compte rendu des décisions du maire. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions du maire ? Pas de questions ? Je vous remercie. On passe donc directement donc au rapport numéro de mémoire 24, qui est les travaux de renforcement du trait de côte. Alors, vous le savez, dans le cadre du PPRL, l'État, et plus précisément la DGPR, a identifié deux zones qualifiées de faibles, qui sont les deux brèches forfaitaires sur lesquelles on a déjà longuement débattu, à savoir à l'ouest à Port-Andreau et puis à la pointe Churchill. Dans le cadre des travaux de la Grande Plage, bien évidemment, nous avons décidé, parce que avant toute considération légale, je pense que l'intérêt et la mission de l'ensemble des membres du conseil municipal, c'est d'assurer la sécurité des Carnacois. Et donc, et je pense qu'on aurait pu nous le reprocher d'ailleurs si nous n'assurions pas cette sécurité le plus rapidement possible, nous avons décidé, même s'il subsiste un certain nombre d'incertitudes légales, que ce soit pour la prise de compétences GEMAPI ou même les conséquences éventuelles que nous pourrions obtenir du renforcement de ces deux brèches vis-à-vis de l'État, et pourquoi pas un assouplissement du PPRL. Encore une fois, on n'a aucune certitude sur la question, il faut être absolument clair. En revanche, on aura une certitude de sécurité des Carnacois quand on aura achevé ces travaux. Donc au-delà de cette question dont vous découvrez les enjeux dans ce rapport 24, avec le montant des travaux estimés, il nous a semblé intéressant de faire venir donc les experts, effectivement, les ingénieurs de la société Artelia, qui ont en collaboration avec les services de l'État, puisque ces travaux ont été approuvés par la DDTM, vous présenter la nature des travaux que nous allons mener pour effacer, dans un premier temps, cette brèche ouest. Je vous rappelle que c'est sur cette brèche ouest que les volumes entrants sont les plus importants en cas de rupture, et que le renforcement de la brèche est, elle, pourrait se faire simplement avec un apport de sable paysager, ce qui sont des travaux beaucoup moins lourds. Et donc nous allons donc adresser cette question de la brèche ouest d'un point de vue technique, et vous serez évidemment à même de poser toutes les questions que vous voudrez aux experts, encore une fois, qui vous répondront beaucoup mieux que ne pourraient le faire des non-experts élus ou même des services techniques, parce que c'est un domaine extrêmement particulier qui est celui de l'hydrologie et de la renforcement des du trait de côte. Donc Sébastien, et puis j'ai oublié le prénom, Guillaume, the floor is yours. Il est bilingue.
Juste deux mots, effectivement, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, alors je vais laisser parler mon collègue Guillaume Leroux. Donc moi, je suis directeur de projet au sein d'Artelia Branche Maritime. Et donc, on travaille effectivement depuis maintenant plusieurs années sur le sujet pour la commune de Carnac. Tout d'abord en assistance sur la problématique du PPR, avec un certain nombre d'études préalables qui avaient été menées, qui nous avaient conduit en fait à proposer un certain nombre de solutions techniques visant en fait à essayer de résoudre les problématiques vues dans le cadre du PPR. Aujourd'hui, donc, on nous a confié une mission de maîtrise d'œuvre pour étudier de manière détaillée les travaux de protection, notamment contre la brèche ouest, mais pas seulement, contre les problèmes de débordement aussi qui avaient été mis en évidence dans le cadre du PPRL. Donc sur le contexte, effectivement, ça a déjà été évoqué par Monsieur le maire, je ne vais pas y revenir. Et donc la mission en cours, dont on va vous présenter les résultats de l'avant-projet, est en cours, enfin l'avant-projet est terminé. En parallèle se font les études réglementaires, dont on pourra dire deux mots, et puis on va vous présenter le planning de la suite également. Donc Guillaume, si tu peux présenter.
Donc oui, merci Sébastien. Dans un premier temps, on va vous présenter donc la première partie qui concerne le confortement ouest au niveau de la plage, et dans un second temps, donc la gestion des débordements sur les sites qui ont été mis en évidence dans le PPRL. Donc, au niveau de la brèche à l'ouest de la plage, donc, je vais vous présenter les solutions techniques qui ont été retenues au stade de l'AVP. Donc, dans un premier temps, c'est l'état actuel du site qui est présenté. Donc, vous avez le parking qui est situé donc, sur votre gauche ici, qui est protégé par un parapet et devant la plage. Donc, nous avons représenté la limite entre le domaine public maritime et la limite du domaine communal, parce que ça aura une importance sur les dossiers réglementaires qui sont à établir par la suite. Donc ça, c'est l'état actuel. Donc l'état projet qui a été retenu au stade des études préliminaires, donc dans les études de confortement pour supprimer cette brèche, consistant en un muret en béton protégé par des enrochements. Donc le muret est situé en arrière du parapet existant, de manière à limiter l'emprise sur le DPM. Donc, suite à cette première version, et en collaboration avec nos collègues d'Artelia et de Phytolab qui travaillent sur le projet de réaménagement du front de mer, il y a une deuxième variante, une deuxième solution d'ouvrage, une optimisation qui a été proposée, consistant à abaisser le niveau de la crête des enrochements pour qu'ils soient enfouis sous la plage, mais également se servir de l'ouvrage vertical, donc de protection contre les submersions, pour y implanter des gradines en arrière. Donc ces gradines jouant à la fois un rôle de franchissement, enfin de limitation des franchissements, puisqu'ils font barrière physique en cas d'événement extrême, mais à la fois un rôle fonctionnel et paysager dans le cadre de l'aménagement urbain.
Juste quelques mots, puisqu'effectivement un certain nombre d'entre vous avaient déjà une présentation des études préliminaires, mais peut-être pas tout le monde. Et effectivement, un ouvrage de ce type-là qui peut vous paraître quand même assez imposant est rendu nécessaire, je dirais, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que dans le cadre de protection littorale de ce type, en fait, on doit dimensionner l'ouvrage sur deux paramètres. Principaux sur le dimensionnement vis-à-vis de la houle, et donc il y a des règles de dimensionnement strictes et très normées qui existent. Fonction de la houle qui arrive sur l'ouvrage, il doit résister à une certaine puissance pour assurer sur sa stabilité sur sa durée de vie. La durée de vie d'un ouvrage de ce type là elle doit être de 100 ans. Elle doit permettre de résister à un événement de perte de retour 100 ans. Ça, c'est par rapport au PPRL. Ça, c'est le premier paramètre. Donc, c'est ce qui explique l'emprise un peu sur la plage et la taille des blocs d'enrochement. Et ensuite, vous avez le paramètre franchissement, c'est-à-dire tous les paquets de mer qui passent par-dessus la digue au moment des tempêtes. Là encore, on doit dimensionner par rapport à des événements exceptionnels, ceux qui sont pris en compte dans le cadre du PPRL. Et en fait, ce paramètre-là va déterminer la hauteur de l'ouvrage. Et donc, si on est obligé de rehausser le mur par rapport à l'état actuel, c'est justement pour permettre de limiter les volumes d'eau qui passeraient par-dessus l'ouvrage en cas de tempête. Donc, ça répond, je dirais, et c'est, y a des règles de l'art parfaitement strictes au niveau français et européen sur le sujet, auxquelles on a contribué à la rédaction, pour lesquels on a contribué à la rédaction. Et donc voilà, j'irais au-delà de ce qu'on vient de vous présenter là, tout ça, ça répond à des normes très strictes, ce qui permet effectivement d'attendre, de s'engager demain sur la stabilité de l'ouvrage en cas d'événement exceptionnel.
Donc, pour continuer, c'est une vue en plan des aménagements qui sont proposés, donc avec en vert l'implantation des gradines telles que prévues dans le projet. Et donc ici en mauve, c'était la première version de l'aménagement qui avait été retenu. Donc il a été décidé un recul léger de la des gradines pour limiter l'emprise sur le DPM. Pour faciliter, on va dire, l'acceptation du projet, notamment au niveau réglementaire. Donc, et cette forme pour pouvoir se raccorder aux deux extrémités du site. Et l'emprise totale du projet représentera un maximum de 580 m² sur le DPM. Et le linéaire, pour un linéaire total d'ouvrage d'environ 100 à 110 mètres. Maintenant, concernant les sites de débordement qui avaient été mis en évidence dans le cadre du PPRL, la solution qui a été retenue, c'est le remplacement des bâtards d'eau amovibles existants par des bâtards d'eau réglementaires qui disposent d'agréments, de calculs de débit de fuite pour avoir donc une protection vraiment validée dans les normes. Donc les ouvrages ont été dimensionnés en longueur et en hauteur en fonction donc du niveau du terrain naturel, mais également des ouvrages sur lesquels ils viennent s'appuyer. Donc vous avez un tableau qui présente l'ensemble des dimensions des bâtards d'eau sur les sites de débordement mis en évidence dans le PPRL, avec le coût unitaire associé.
Là encore, une petite précision. Effectivement, ces aménagements, pour ceux qui avaient suivi de près, j'imagine tous parmi vous, les prescriptions du PPRL, c'est qu'il avait été qualifié des sites dits avec des brèches, donc notamment le secteur où on va mettre une protection d'enrochement, sur lequel il pouvait y avoir des paquets de mer en cas de tempête. Mais il y avait ici aussi un certain nombre de sites sur la commune où il était mis en évidence des débordements. Les débordements, c'est quoi? C'est simplement quand le terrain naturel, en fait, est inférieur au niveau de référence qui a été établi par l'État dans le cadre du PPRL. Ce niveau de référence, alors on peut rediscuter de sa valeur, mais en tout cas, il existe. Et donc, voilà, pour les niveaux, ces ouvrages sont mis en place justement pour respecter ces niveaux d'eau en prenant en compte un réchauffement climatique à 2100 et permettre justement d'avoir une meilleure efficacité des dispositifs, hein, même si les dispositifs que vous avez aujourd'hui fonctionnent. Là, effectivement, on est sur des choses qui sont normées et donc ça permet vraiment d'être beaucoup plus sûr et d'être conforme, aux normes sur le sujet.
Le dernier site de débordement donc, qui n'était pas présenté dans le tableau précédent est le site de Port-Andreau, où la problématique est plus complexe, parce qu'on est face à des phénomènes plus compliqués, donc avec pénétration de la houle dans le bassin. Donc on a envisagé deux solutions pour traiter les problèmes de débordement dans le bassin. Donc la première solution, qui consiste à fermer, l'extrémité du bassin par la réalisation d'un mur en maçonnerie, et la mise en place de bâtards d'eau amovibles dans la partie sud, sachant que le muret qui borde le boulevard ici est à une altimétrie suffisante pour assurer le rôle de limitation des débordements. Donc on ne viendrait pas toucher à ce muret.
Qui a déjà été rehaussé quelques années.
Et la deuxième solution, quant à elle, consiste à donc toujours mettre en place des bâtards d'eau amovibles au niveau du muret partie sud. Et contrairement à la première solution, c'est essayer de maîtriser les débordements dans la partie nord du bassin pour les canaliser vers le chenal, vers le petit cours d'eau qui amène vers les salines un peu plus haut. Donc la différence essentielle en fait entre les deux scénarios, donc c'est le traitement de la partie nord, puisqu'avec après discussion avec Madame Danielou, qui était gestionnaire de la Thalasso, il avait été mis en évidence des risques de réflexion et d'agitation dans le bassin qui pourraient potentiellement endommager les locaux situés dans la partie ouest. Et avec une crainte qui est difficilement quantifiable d'augmentation de l'agitation dans le bassin par la réalisation d'un muret en partie nord.
Ce qu'elle nous expliquait, en fait, c'est qu'elle a fait rehausser le muret qui est ici. Et qu'effectivement, depuis le rehaussement de ce muret, elle observait des phénomènes de ressac, puisqu'on est sur un ouvrage vertical, et donc qui parfois, sur certaines conditions d'agitation qui rentrent dans le bassin, créer des problèmes sur les bâtiments ici. Et donc, on voulait étudier les différentes possibilités pour résoudre la problématique. Donc, effectivement, il y a ce qu'on vous a montré. Hein. Soit on traite ce secteur qui n'est pas aujourd'hui où il n'y a pas de muret. Donc, ici, le muret existe déjà. Soit on traitait ça avec un autre muret, avec effectivement, potentiellement, les mêmes phénomènes de ressac, à pleine mer uniquement, ou essayer de traiter autrement, par la canalisation des écoulements, mais avec des questions techniques autres sur que devient l'eau qui part par ici. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait tranché. On a comparé les deux solutions. Nous, on est plutôt favorable à celle-ci, hein, celle du muret, parce qu'elle est plus simple à gérer que l'autre. Néanmoins, il y a encore des questions techniques qui se posent auxquelles il faudra répondre. En plus, elle est moins chère.
Et dans ce secteur, il reste un dernier point en suspens qui est en cours de réflexion donc avec nos collègues qui sont en charge de l'aménagement du front de mer, c'est le traitement au niveau du pont, puisque les murets actuellement s'arrêtent au droit de ce pont, et potentiellement il pourrait se produire des débordements donc au niveau du trottoir dans ce secteur sur l'ensemble du linéaire. Et sachant qu'il est probablement prévu le remplacement des garde-corps, donc une étude, et enfin, on est en réflexion, en discussion avec nos collègues pour savoir comment traiter ce point particulier du pont.
Ce muret avait déjà été surélevé, non?
Oui, celui-là. Oui.
Celui-ci, oui.
Et vous parlez de le... Il faut le renforcer?
Non, celui-ci. On...
D'accord.
Donc ce muret, là, tout le long du boulevard, sera pas modifié.
Il a déjà été rehaussé, il est à la bonne cote. En fait, de la même manière que sur les sites en bord de mer, en fait, on doit se caler par rapport à un niveau de référence, et donc déterminé dans le cadre du PPRL. Et effectivement, celui-ci est au-dessus, légèrement au-dessus du niveau de référence. Et en fait, tous les endroits qu'on traite, ce sont des points bas, inférieurs au niveau de référence. C'est tout. Et donc, vous voyez, il y a que les accès finalement, hein, pratiquement. Sauf ici, effectivement, on s'est rendu compte que le trottoir était légèrement plus bas que le muret. Donc, il faut pas laisser un point bas ici, parce que autrement, l'eau elle va passer là, alors qu'elle sera bloquée des deux côtés. C'est un petit aménagement, mais effectivement, il faut pas laisser ce trou, quoi. Bah, pour le moment, c'est pas. Il faut qu'on regarde, il faut qu'on voit ça en relation avec Phytolab qui traite le réaménagement. Mais ça. Ouais. Par-dessus la route, mais de l'autre côté, vous voulez dire? Ouais, il y a effectivement d'autres sujets. On en avait parlé avec Madame Ezep. C'est effectivement la pénétration de la houle dans le bassin depuis l'entrée. Là, c'est un autre sujet, effectivement, mais qui est pas aussi simple que ça à traiter. On avait regardé un petit peu comment on pouvait faire. C'est pas évident, sauf à faire des aménagements très lourds, avec des ouvrages de fermeture, choses comme ça. Mais voilà, c'est vraiment notre échelle. Mais bon, voilà, par rapport à ce sujet en particulier, effectivement, c'est un point encore à analyser un peu plus dans le détail, dans le cadre des études détaillées.
Donc, concernant l'estimation des travaux, donc, on a présenté deux estimations qui sont en fonction en fait, du scénario retenu au niveau de Port-Andreau, puisque le reste des aménagements sur la Grande Plage et sur les autres sites de débordement est identique. Donc on arrive à un montant de l'ordre de 435 000 à 463 000 euros en fonction du scénario retenu sur le site de Port-Andreau.
Avec une précision pour que les chiffres collent à peu près avec ce que vous avez sur le projet de compte-rendu, c'est qu'effectivement dans l'estimation, on avait intégré les gradines qu'on vous a montrées et qui en fait vont être sorties de ce marché, qui vont être intégrées dans le cadre du marché front de mer. Parce que c'est plus logique en termes de réalisation des travaux. Donc le montant sera légèrement inférieur. C'est celui qui est indiqué dans le compte-rendu qui vous est fourni. Voilà. Donc sur les dossiers réglementaires, comme on vous le disait tout à l'heure, faire ces aménagements, ça nécessite évidemment d'avoir des autorisations administratives pour le faire. Donc il y a eu différentes étapes. Tout d'abord, on a sollicité les services de l'État pour savoir s'il était nécessaire ou pas de faire une étude d'impact. Donc c'est l'objet des premiers documents. Donc fin août, on a une réponse comme quoi c'était pas nécessaire. Donc on est sur des procédures quand même plus légères, entre guillemets. Donc un dossier qui a été remis après l'été, là, sur lequel on est en train de faire des petits ajustements, mais qui avance bien. Et le dernier sujet à traiter, là, où il y a des réunions qui sont programmées, sur justement cette problématique d'emprise sur le domaine public maritime. Effectivement, l'État étant propriétaire du domaine public, il regarde assez près ce qu'on y fait. Donc il y a encore des petites suggestions à traiter sur ce sujet-là, sur la protection en enrochement, mais également de manière plus générale sur le front de mer. Voilà, donc c'est des points encore d'ajustement sur ces sujets-là, mais ça avance, je dirais, assez bien. Il y a eu des phases de préparation, de discussion en amont avec les services de l'État, donc ça avance plutôt bien.
Donc, au niveau du planning, on est donc à l'heure d'aujourd'hui à la fin des études d'avant-projet. Donc, la suite, ça sera donc, la réalisation des études détaillées, puis la consultation des entreprises qu'on espère avoir terminées pour avant l'été l'année prochaine, enfin qui seront terminées pour avant l'été. Et avec un démarrage des travaux envisagés donc, pour fin 2018, début 2019. Donc, tout sachant qu'on viendra s'intégrer dans le planning des travaux de réaménagement du front de mer. Pendant qu'on travaillera sur ce secteur-là, donc, les équipes de réaménagement du front de mer travailleront à côté, viendront finaliser les aménagements une fois les ouvrages réalisés de notre côté.
Ouais, ce planning il a été établi en coordination avec eux. Évidemment, il ne s'agit pas d'aller casser tout ce qu'ils auront fait avant et vice-versa. Donc, on a aussi quand même un enjeu dans le planning, c'est le déplacement de la conduite de la thalasso. Parce que vous avez vu qu'elle était juste devant l'ouvrage existant. Donc on doit la déplacer avant. Évidemment, on doit faire la nouvelle conduite avant de détruire l'existant. Donc, c'est ça. Donc, voilà, on avait rencontré avec les services techniques les anciens propriétaires et gestionnaires de la thalasso pour se caler au niveau du planning. Donc, on était parti sur des réalisations de travaux, en tout cas de raccordement sur la période d'interruption qu'il y a en fin d'année. Bon, ça peut changer, il faudra voir avec les nouveaux propriétaires. Néanmoins, ça change pas, je dirais, ça peut évoluer à la marge, mais globalement, voilà, on s'est calé dans le planning du front de mer et ça sera à peu près sur cette période-là. De la même manière, sur la réalisation des études techniques détaillées et la consultation des entreprises, ça se fera en coordination avec les travaux du front de mer. Du front de mer. Et du coup, voilà, il peut y avoir des ajustements à la marge sur ce planning-là. Avec un point de vigilance, effectivement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'incertitude, elle est toujours sur le temps d'instruction, les délais d'instruction des dossiers administratifs par les services de l'État. Bon, ça avance plutôt pas mal, donc reste assez serein sur le sujet, mais il faut quand même, effectivement, et c'est ce que font les services techniques et vos adjoints, c'est qu'effectivement, il y a un suivi régulier auprès des services de l'État, ce qui permet de que ça avance relativement vite.
Dans la première étude que vous aviez faite, vous aviez prévu un délai de 15 mois entre l'étude pro et le début de démarrage des travaux. Là, vous êtes à peu près à 12 mois. Si vous, le décalage entre les deux, c'est parce que vous n'avez pas d'étude d'impact.
Oui, c'est ça. Ouais. Effectivement, il n'y a pas d'étude d'impact. Il y a aussi... Alors, on a quand même une enquête publique. Avec la problématique du DPM. Alors, on est sur des dossiers allégés au niveau réglementaire, dossier loi sur l'eau, ce genre de choses, mais la concession du domaine public maritime nécessite une enquête publique, donc il y aura une enquête publique, on ne sait pas encore quand, mais effectivement la différence c'est ça, et puis c'est surtout que je dirais que le planning il est optimisé, hein. Plus on avance dans l'étude détaillée, voilà, on avait mis 15 mois, c'était l'étude préliminaire je pense. Voilà. Mais effectivement, avec la raison principale, c'est que on savait pas bien à l'époque si on aurait une étude d'impact à faire. Et en fait, le délai global moyen de traitement d'une étude d'impact, c'est ça, entre 14 et 16 mois. Et la bonne nouvelle de fin août, c'est effectivement que c'était pas nécessaire d'en faire une.
C'était le dernier slide, non ?
Voilà.
Mais... voilà. Merci messieurs. Est-ce qu'il y a des questions? Profitons de leur présence. Est-ce qu'il y a des questions sur ces... Monsieur Bonduel.
Oui. On ne pourrait pas tout simplement boucher le port Andrault.
Merci monsieur Bonduel.
Non, ça ferait des parkings.
Oui. Bah, vous allez expliquer ça aux propriétaires de bateaux. C'est un parking déjà aujourd'hui, à bateau. Est-ce qu'il y a des questions? Messieurs, merci beaucoup. Merci. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes en week-end, contrairement aux membres du conseil municipal qui vont devoir encore travailler un peu.
Donc, bon courage alors.
Merci à Artelia et merci à Sébastien et à Guillaume. Sébastien qui nous accompagne depuis déjà, c'est un vieux compagnon, ce PPRL plus renforcement du trait de côte. Donc on va peut-être arrêter un moment quand même.
On va essayer de finir les travaux.
D'accord, ce serait bien. Ouais. Soyez prudent et bon retour sur Nantes. Donc vous l'avez compris, nous sommes amenés à voter sur l'approbation de cet avant-projet de travaux, hein, ainsi que sur le coût prévisionnel qui reste encore évidemment à être affiné, vous l'avez compris. En revanche, ce qui est définitif, c'est le montant de rémunération du maître d'œuvre, hein, qui s'établit à 48 600 euros hors taxe. Et donc le conseil municipal doit autoriser le maire ou l'adjoint délégué à poursuivre les études de maîtrise d'œuvre, à engager la phase pro et à lancer l'enquête publique relative à l'occupation du domaine public qu'on vient d'évoquer. Et à signer tout document relatif à ce projet. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a... Ben, le reste, c'est des votes pour, forcément. Je vous remercie. Alors, on revient dans l'ordre du jour normal du Conseil municipal. Et nous passons donc maintenant à une série de rapports qui ont trait au tourisme suite donc à la démission de Madame Moreau de son poste d'adjointe. Nous devons donc réélire dans un certain nombre de commissions et d'organisations les différents représentants du conseil municipal dans différentes instances. Le rapport numéro 4 porte sur l'EPIC de l'Office du tourisme et donc la première question que je vais poser à l'opposition, puisque l'opposition y est représentée, Madame Le Golvan, vous souhaitez continuer à siéger dans l'EPIC de l'Office du tourisme ? Parfait, très bien. Donc nous proposons simplement de remplacer Madame Moreau par Monsieur Pascal Lejean. Je signale d'ailleurs au Conseil municipal que j'ai étendu la délégation de Monsieur Lejean au tourisme il y a quelques jours et donc il remplacera Madame Moreau dans la délégation au tourisme dans ses fonctions. Et donc je vous demande simplement de conserver les représentants du Conseil municipal tels qu'ils existaient aujourd'hui, à la différence donc du remplacement de Madame Moreau par Monsieur Pascal Lejean. Est-ce qu'il y a des questions sur ce... Monsieur Deripa ?
Oui, la démission de Madame Moreau donc laisse un poste d'adjoint vacant.
Je ne peux rien vous cacher.
Donc s'il y a un poste d'adjoint vacant, normalement le conseil municipal doit délibérer soit pour remplacer cet adjoint, soit pour décider de ne pas le remplacer.
Non, je ne crois pas. J'ai juste besoin d'étendre la délégation de l'adjoint en question.
Non, je ne crois pas. Je crois... Mais si le poste reste vacant, étant donné que le nombre d'adjoints a été voté par le conseil municipal, c'est-à-dire 7, si vous laissez un poste vacant, soit il doit être pourvu, à ce moment-là, n'importe quel conseil municipal peut se présenter pour ce poste, soit vous le supprimez, c'est-à-dire qu'il faut une nouvelle délibération du conseil municipal pour passer de 7 à 6 adjoints.
On peut aussi laisser Madame Moreau sans délégation, c'est une solution. On vérifiera ce point, monsieur.
Est-ce que vous pouvez le vérifier, s'il vous plaît ?
On le vérifiera. Sur le vote...
Juste une précision. Quand vous dites on peut laisser Mme Moreau adjointe sans délégation, ça c'est possible ?
Non.
Ah, d'accord.
C'est pas ce qu'on souhaite faire.
Non, mais je pose la question.
C'était...
D'autant plus qu'elle a démissionné.
Le micro, merci. Alors, sur donc ce switch, est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je vous remercie à l'unanimité. Alors, pour ce qui concerne les élections aux commissions municipales, là, il faut donc simplement également... nous ne modifierons pas donc la composition de la commission vie associative, animation et tourisme. Nous allons simplement élire M. Lejean comme 9e membre de cette commission sans toucher au reste de la commission. Et donc, j'ai bien compris qu'au niveau de la proportionnalité, cette nomination ne pouvait pas de problème. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui, même question, monsieur le maire. Le nombre de membres de cette commission a été fixé par le conseil municipal. Si vous voulez rajouter un membre, vous êtes obligé de passer par une délibération du conseil municipal.
Il va être fixé là par ce vote de manière implicite.
Il faut modifier la première délibération par une deuxième délibération.
On vérifiera ce point, monsieur.
Est-ce que vous pouvez le vérifier ? Oui, mais enfin là, on est en train de vérifier des points qui auraient pu être vérifiés avant,
vérifie,
je pense.
Hein. On vérifie tous les points sur lesquels vous demandez une vérification. Ne me demandez pas de vérifier un point que vous venez à l'instant de me demander de vérifier.
Bah oui, mais on procède immédiatement à l'élection, donc c'est un petit peu
gênant.
Oui,
on procède immédiatement à l'élection. Et s'il faut revenir pour un point de vue technique, mais comme vous déploriez il y a quelques jours le fait qu'il n'y avait plus de pilote dans l'avion, il y a un pilote et il faut donc qu'il puisse effectivement piloter le tourisme. Donc est-ce qu'il y a des votes contre cette cette nomination de Monsieur Lejean dans la communion vie associative, animation, tourisme. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Cette nomination est donc entérinée. Pour ce qui concerne la désignation des représentants de la société publique locale au Rec-Quiberon Tourisme, Monsieur Lejean et Madame Moreau étant les titulaires, je vous propose donc simplement de remplacer Monsieur Paul Chapelle par Monsieur Moreau, pardon, par Monsieur Paul Chapelle, Madame Moreau par Monsieur Paul Chapelle, pardon. Je m'en mêle, la journée a été longue. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette proposition? Pas de commentaires, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Parfait. Qui s'abstient? Pas l'unanimité, excusez-moi. Le reste sont des votes pour. Le rapport est donc adopté. Et enfin, pour ce qui concerne la désignation d'un membre du conseil municipal à la commission tourisme d'ACTA, de manière évidemment rationnelle, je vous propose de désigner M. Pascal Lejean dans cette commission tourisme d'ACTA. Est-ce qu'il y a des votes contre? Parfait. Des abstentions? Le rapport est adopté. Je vous remercie. On passe maintenant à un certain nombre de rapports financiers. Monsieur Lejean, sur le budget principal de la commune, décision modificative numéro 2. Ah, pardon. Monsieur Gondel, excusez-moi.
Oui, je voudrais faire un petit commentaire là, sur les trois décisions qui viennent de prises. Je trouve qu'on assiste à une concentration des différentes responsabilités. Et je trouve que c'est une véritable organisation oligarchique. Pascal Lejean, le tourisme, la finance, les représentations, je ne sais pas, on est quand même 27 ici, on aurait peut-être dû se trouver une autre organisation. Je trouve qu'en son temps, Louis XIV, le roi soleil, n'aurait pas fait mieux. Mais je trouve que Paul Chapelle est parfait en Mazarin et que Pascal Lejean en Nicolas Fouquet. Hélas, trois fois hélas, monsieur le maire, j'ai du mal à vous voir en Louis XIV. Non pas à cause de vos compétences, mais malheureusement, il vous manque le château.
C'était le... Vous avez jamais pensé à louer la salle du Ménec pour faire un one-man show, monsieur Manduel? Non, parce que franchement, sérieusement, vous devriez l'envisager, hein. Quand on a des talents de stand-up comme ça, franchement, on tente une carrière. Madame Moreau, vous vouliez faire un commentaire?
Oui, je voulais juste intervenir, monsieur le maire, si vous me le permettez, pour faire un certain nombre de remerciements. Tout d'abord à vous, monsieur le maire, de m'avoir confié cette délégation. J'ai tâché de l'exercer dans le respect des engagements qu'on a pris devant les Carnacous en 2014. Ce fut un travail passionnant. Et je vous remercie vraiment de m'avoir fait confiance. Merci aussi à tous mes collègues élus, et plus particulièrement aux adjoints en charge, dont je connais parfaitement l'engagement au quotidien. Je souhaite aussi remercier publiquement et très sincèrement les agents des services de la mairie. Notre travail d'élu dans la délégation qui nous est confiée ne peut se concrétiser sans vos conseils techniques et sans votre travail. Merci beaucoup, vous m'avez si souvent épaulé. Je souhaite aussi remercier l'ensemble des membres du CODIR de l'Office de tourisme, et plus particulièrement le vice-président Denis Garcia. Le CODIR est, comme vous le savez, composé à la fois d'élus, mais aussi de professionnels du tourisme de la station. C'est un lieu d'échange, de discussion, mais aussi et surtout de prise de décision. Merci à vous tous pour ces réunions riches, pour m'avoir si souvent éclairé devant des décisions parfois difficiles, pour votre temps passé et merci pour l'Office. Je finirai par un remerciement particulier au personnel de l'Office de tourisme. Je souhaite saluer les compétences variées et complémentaires de chacune, la rigueur, la motivation, la capacité à s'adapter aux changements, parce que dans les offices de tourisme, ça ne demande pas. Il faut toujours s'adapter aux demandes clients, mais pas que. Et enfin, merci à Nicolas Maisonneuve pour ses 3 années de collaboration et pour l'excellent travail de direction qu'il mène à l'Office de tourisme depuis son arrivée. Merci beaucoup les filles, merci beaucoup Nicolas. Aujourd'hui, avec mon mari, nous entamons une autre étape de notre vie professionnelle. Elle nécessite ma présence au quotidien et il était nécessaire de prendre une décision concernant mon engagement municipal. On ne peut pas faire les choses à moitié quand on est maire adjoint et on ne peut pas faire les choses à moitié non plus quand on est un professionnel indépendant. J'ai donc remis ma démission à M. le préfet début octobre. Ce n'est pas une décision qu'on prend sur un coup de tête, parce qu'elle n'engage pas que vous. Mais on la prend, quand on sait que garder son poste ne fera que compliquer la bonne tenue des affaires communales. Alors cette décision, je l'ai prise. Je souhaite finir pour rendre hommage à Pascal et le remercier. Il a accepté d'ajouter le tourisme à sa délégation et je souhaite lui apporter autant que je le pourrai mon soutien. Je suis convaincue qu'il exercera cette délégation dans la continuité du travail engagé. Je n'ai aucun doute là-dessus. Pascal a toute ma confiance, parce que je sais qu'il a Carnac au cœur.
Merci.
Merci, Armel. Je sais que ça en ferait très plaisir à certains s'il y avait l'ombre d'un papier à cigarette entre toi et moi. J'ai déjà eu l'occasion de rendre hommage à l'action d'Armel. Je rappelle qu'Armel est conseillère municipale depuis 2004, qu'elle a beaucoup fait pour la commune. Et que quelque part, voilà, je veux pas dire que je suis pas ravi ni content qu'Armel ait dû prendre cette décision, mais j'aimerais que il y ait un petit peu plus de respect, notamment de la part de Monsieur Bonduel, quand quelqu'un s'exprime, les commentaires ou les onomatopées sont tellement déplacées. Je sens parfois une animosité qui confine parfois à la haine, et ça me choque profondément, Monsieur Bonduel, que vous puissiez.
Monsieur le maire, je peux pas vous laisser dire ça. Puissiez, la haine, jamais.
Je vais aller jusqu'au bout, Monsieur Bonduel.
On peut plaisanter, mais après, la haine, jamais.
Après Et... Monsieur Bonduel, il y a un règlement
intérieur. Vous retirez votre mot, monsieur le maire.
Certainement pas.
La haine, jamais.
Certainement pas.
Je quitte le conseil.
Eh bien, quittez le conseil. Perception vaut réalité, monsieur Bonduel.
Vous moquez du monde. Non. Je vous demande de...
Non, mais certainement pas. Mais
non, il n'y a pas de haine, monsieur le maire.
Eh bien, écoutez, moi, je la ressens.
Alors, je signale que la presse... J'espère que la presse va relater cet incident.
Mais tout à fait, et je pense que...
Parce que je trouve ça inadmissible.
Je ne suis pas le seul.
Et c'est pas digne d'un maire.
Je ne suis pas le seul.
Et d'ailleurs, ça m'étonne pas.
Il y a beaucoup de choses indignes que vous faites aussi régulièrement, monsieur Bonduel.
Pardon ?
Y compris faire réagir quand madame Moreau lit son texte. C'est totalement indigne.
Donc, comment ça, j'ai réagi ?
Je ne retirais pas. Enfin, tout le monde a entendu.
J'ai quand même remarqué que Mme Moreau avait remercié aussi l'opposition.
Monsieur Bonduel,
vous m'avez mal écouté, Monsieur Bonduel ?
Monsieur Bonduel, je reconnais régulièrement votre plume dans votre papier bleu, les allusions ridicules à tourner manège, le mélange des genres entre des personnes et une fonction. Je ne retirerai pas ce que j'ai dit, ce que je ressens. C'est une appréciation personnelle. Je ne suis pas le seul à le penser. Il y a parfois un peu de haine dans la façon dont vous semblez traiter les gens. Je le répète. Et je ne le retirerai pas. OK ? C'est clair ?
Prends acte et je saurai m'en souvenir.
Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez de dire trois mots à Monsieur Bonduel ? Je veux juste vous dire, Monsieur Bonduel, et je crois m'être déjà exprimé à ce sujet à l'occasion d'une commission, j'ai été très blessée par vos propos, je vous l'ai déjà exprimé, et je vous le redis ce soir.
Merci.
Vous êtes ridicule, Monsieur Bonduel. Vous êtes ridicule et vous êtes en train de confirmer exactement ce que je vais vous dire.
Eh bien, c'est bien.
Et c'est pas comme ça qu'on traite des personnes qui s'engagent pour leur commune, même si on n'est pas d'accord avec leur action.
Je pense qu'on peut aussi un peu avoir un peu d'humour. Moi, l'humour, c'est quand même pas facile à accepter. Enfin, c'est ce que je constate, c'est tout.
L'humour, ça fait rire. Quand ça blesse, c'est pas de l'humour. Non, mais c'est pas à vous de le décider, c'est à la personne à qui ça s'adresse. Si elle vous dit qu'elle est blessée, c'est difficile d'évacuer cette réponse, monsieur Bonduel. Vous pouvez pas dire non, je l'ai pas blessée. Si, vous l'avez blessée. Et vous avez blessé beaucoup de gens autour de cette table. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, malheureusement, ça n'a aucun impact. Donc, au bout d'un moment, on se pose la question de savoir effectivement qu'est-ce qui motive cette acrimonie. On passe à un autre sujet ? Vous restez quand même ? Merci, monsieur Bonduel. Et merci encore à madame Moreau. Encore une fois, ça fait plus de 14 ans au service des Carnacois, et elle le demeure, puisqu'elle reste conseillère municipale. Voilà. Monsieur Lejean, budget principal de la commune.
Oui, il s'agit de la décision modificative numéro 2 de l'année pour le budget de la commune, et donc d'approuver cette décision avec une variation de plus 58 084 euros en dépenses et en recettes de fonctionnement, et plus 419 338,23 en dépenses et en recettes d'investissement. Sur les 58 084 qu'il y a de modifications en fonctionnement, il y a 57 000 qui vient du chapitre 011, charges à caractère général, dont 27 000 qui sont des fournitures et des petits équipements, qui viennent surtout des dépenses supplémentaires liées aux travaux de régie. Je vous rappelle que les travaux de régie, c'est ce que fait effectivement les services de la commune et qui passent en investissement, donc qui changent effectivement de budget. Pour la majeure partie, 15 000 euros qui sont en dépenses supplémentaires pour la réfection de la médiathèque et donc qui est compensé par un remboursement d'assurance, puisque ce sont des trois vitres qui ont été changées et qui ont eu aussi un remboursement d'assurance pour les éléments principaux. Sur l'investissement, sur les 419 000, vous en avez 300, je dis pas de bêtises, 354 000 qui sont dus à des apurements de comptes entre les comptes 2031 et 2033 suite à l'observation de la Chambre régionale de la Cour des comptes, qui sont entre autres des études qui n'étaient pas mises dans les bons comptes depuis X années. Donc il a fallu tout simplement changer. Monsieur de Ripper.
Ça permet aussi de récupérer la TVA, non?
Non.
Non?
Pas spécialement. Pas le SCTVA.
Pas là-dessus? Pas non. Sur les, le fait
non.
De...
Non, parce que là on reste dans l'investissement. C'est juste un changement de compte dans l'investissement. Donc le SCTVA a déjà été récupéré. Pour ceux qui datent de N-1. Puisque je vous rappelle que le SCTVA, on est décalé d'une année.
Oui, j'ai pas saisi là pour les 64 598 qui sont virés à la section investissement. Est-ce que oui. C'est les travaux en régis?
Alors les 64 000 qui sont virés à la section investissement, c'est le montant de la recette écrite au chapitre 21 qui sont partis en recette d'investissement. Donc c'est un excédent qui était dans les dépenses imprévues. Pas d'autres questions?
Sur ces décisions modificatives, je propose de passer au vote, excusez-moi. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 9, budget annexe du musée 2017. Décision donc, modificative numéro 2 également.
Tout à fait. Donc la décision modificative pour le musée, donc il est demandé d'approuver plus zéro ou moins zéro, comme vous voulez, en dépenses et en recettes de fonctionnement, et la même chose en investissement. C'est-à-dire c'est juste un jeu d'écriture.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport, sur cette édition modificative du musée? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 10, monsieur Lejean, un marronnier, à savoir les délibérations budgétaires spéciales qui autorisent donc l'exécution de dépenses d'investissement 2018 avant le vote du budget.
Tout à fait. Comme tous les ans, nous votons la DBS, délibération du budget spécial. Donc, il est proposé de voter une DBS d'1 653 500 euros, avec la virgule au bon endroit. Pour effectivement engager les investissements le temps de voter le budget. Sachez que nous pouvons aller jusqu'à 25% de l'investissement prévu en N-1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pouvait aller jusqu'à 2 512 000. Le détail a été passé en commission des finances. Il n'y a pas eu d'objection.
Des questions sur ce...
Non, une simple petite rectification, c'est le chapitre 204 et non pas le chapitre 20.
Oui.
Très bien. Bonne remarque, effectivement. Est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération? Est-ce qu'il y a d'abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 11, toujours monsieur Lejean, sur l'autorisation relative à l'exécution des dépenses d'investissement 2018, cette fois-ci pour le musée.
Alors, tout à fait. Donc, c'est un petit peu la même chose qui est passée pour le musée. Et donc, toujours pour pouvoir engager les premiers investissements en attendant le vote du budget.
Pas de questions, pas de remarques. Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 12, action entreprise à la suite du rapport d'observation de la Cour régionale des comptes. Vous savez que nous avons été donc, avons fait l'objet d'un audit et d'un rapport de la Cour régionale des comptes. Dans ce, comme la loi le prévoit, dans ce type de rapport qui n'a pas identifié, je dirais, de dysfonctionnement grave, mais comme toujours, un certain nombre d'améliorations à apporter, nous sommes tenus, dans l'année, je crois, qui suit la remise de ce rapport, eh bien, d'exposer un certain nombre d'améliorations et de processus ou de décisions qui ont été mis en œuvre pour répondre aux questions posées par la Cour régionale. national des comptes. Et M. Lejean va donc nous détailler l'ensemble de ces mesures qui sont mises en œuvre ou ne pas détailler, M. Lejean, comme vous voulez. Mais
je pense il y a le document qui est marqué.
Il y a une petite note de synthèse.
Je suppose que tout le monde a été le voir quand même. Donc il y a des petites choses qu'on a mises en place, mais qu'on va retrouver un peu plus loin. C'est entre autres la gestion de l'occupation des bâtiments communaux, puisque la Cour des comptes nous avait fait quelques réflexions à ce niveau-là. Donc on a mis des petites choses en place. Et puis le reste, bah, vous l'avez et en détail. Est-ce que vous avez besoin que je détaille
Est-ce qu'il y a des questions,
je vais faire long,
Monsieur Deripper?
Oui, je voudrais faire quand même une remarque. En ce qui concerne la gestion du personnel, la Cour des comptes avait déclaré comme irrégulier le congé dit d'ancienneté. Apparemment, ça ne figure pas dans l'action qui va être entreprise, avec retard d'ailleurs, hein, puisqu'elle est entreprise en concertation au mois de décembre, alors que normalement on a un an à partir du 24 septembre 2016 pour entreprendre ces actions. Mais cette action-là ne figure pas dans dans le détail de vos actions.
D'abord, il y a plein de petites actions qui ne sont pas... pour ce qui concerne l'adaptation des remarques de la Cour régionale des comptes au sujet des dispositions sur la durée du temps de travail et un certain nombre de choses, nous venons d'entamer les discussions lors du dernier comité technique qui a eu lieu à 16h30 cet après-midi. Et donc nous sommes en cours de négociation avec les représentants des agents au sein du CT pour régler l'ensemble de ces problèmes. Et on vous tiendra informé effectivement de l'ensemble des négociations qui vont être menées, à la fois sur le temps de travail et également sur le point que vous avez mentionné.
D'accord.
Pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote et donc d'approuver les termes du rapport sur les actions entreprises. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Et le reste sont des votes pour. Je vous remercie. Le rapport est donc adopté. Alors, on passe maintenant à une promesse de vente d'une parcelle 43 qui est située avenue du Raïc à la société Bouygues Immobilier dans le cadre d'une OAP. Et la commune se propose de vendre ce terrain pour un montant de 228 euros le mètre carré, soit 533 064 euros. Et donc, dans le cadre de ce rapport, et dans lequel d'ailleurs il n'y a pas de document de synthèse, hein, c'est une erreur. Néanmoins, ceux qui veulent se voir communiquer la promesse de vente établie par la SCP Tilly et Rejon, évidemment, chaque membre du conseil municipal pourra avoir accès s'il le veut, et donc de céder à la société Bouygues donc ce terrain dans le cadre de l'OAP. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs propriétaires sur cette parcelle. Je rappelle également, pour à titre d'information, que les deux autres propriétaires cèdent leur terrain à une valeur de 211 euros le mètre carré. Voilà.
Et pour ajouter, il y a eu un avis favorable de la commission finances.
D'accord. Merci, monsieur Lejean. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Le Golvan.
Alors, moi, j'ai quelques remarques. Donc, concernant Césarine, moi, je ne comprends pas trop votre logique. Le jardin de Césarine, donc, on le sait tous, est un lieu apprécié, fréquenté par les Carnacois. Vous avez vous-même défendu l'idée qu'il fallait que ce jardin soit la coulée verte de Carnac, le poumon vert de Carnac, expression utilisée régulièrement par Madeleine Bernard, et que c'était aussi la jonction bourg-plage. Vous aviez d'ailleurs refusé de suivre le projet de Jacques Bruneau, qui était d'implanter une salle de spectacle de 300 places sur ce lieu, et vous aviez décidé d'ailleurs de réaliser la médiathèque et son auditorium à la place de l'ancienne salle Saint-Fiacre. Vous aviez aussi continué à faire des acquisitions foncières avec comme objectif l'agrandissement du jardin de Césarine. Vous donnez d'ailleurs toujours des signaux positifs en y installant des nouveaux jeux. Aujourd'hui, vous décidez de vendre à un promoteur, et ce, à un prix en dessous de celui proposé par les domaines, en lui faisant de cadeaux d'à peu près 50 000 euros. Vous sacrifiez notre espace de respiration en le réduisant et en y autorisant la construction d'une cinquantaine de résidences qui, on le sait tous, sera destinée à satisfaire des résidences secondaires, et d'argumenter qu'il y aura 20% de logements sociaux ne me satisfait pas. La commune possède d'autres réserves foncières qui pourraient accueillir du logement social. Je cite le parking du Courdiec, Bellevue, etc. Était-ce nécessaire de vendre en deçà du prix du marché? Surtout que vous avez vous-même, lors de la vente de l'ancienne perception, refusé l'offre d'un Carnacois, lui préférant une retraitée parisienne, en argumentant en conseil que vous défendiez les intérêts des Carnacois. Et au dernier CCAS, et j'en terminerai là, quand nous avons abordé la vente de la maison de Mme Kerzéro, vous nous avez dit que nous ne pouvions vendre en dessous du prix des domaines. Votre nouvelle vision de Carnac mérite quelques éclaircissements.
Merci pour cette lecture, Madame Le Golvan. Juste un point, je ne comprends pas tellement la cohérence entre vouloir garder un espace vert et en ayant été favorable pour la construction d'une salle de spectacle à cet endroit-là.
À l'époque, justement, vous défendiez le fait que Césarine reste...
Vous, vous défendiez le contraire.
Ah, mais à l'époque, la médiathèque, en effet, devait être installée sur le parc de Césarine avec un parc autour.
Donc
mais,
je relève...
Mais quelques... Mais attendez, je rajoute que votre idée, monsieur le maire, m'a plu, puisque j'ai toujours défendu Césarine et j'ai fait installer des jeux pour que ce soit vraiment un espace partagé entre adultes, enfants, personnes âgées. Alors, donc on peut tout à fait revoir sa copie, mais vous, votre argumentation à l'époque pour qu'il n'y ait pas la construction de la médiathèque, c'était de conserver cette zone verte.
Alors, Madame Le Golvan, tout d'abord, cette zone verte va être conservée. L'endroit aujourd'hui du parc Césarine n'est absolument pas impacté. Il s'agit d'une zone qui est dans l'est du jardin de Césarine et qui aujourd'hui ne fait pas partie du jardin. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi, lors de l'enquête publique, n'avoir pas signalé au commissaire enquêteur votre volonté de vouloir garder cet espace préservé? Parce que j'ai regardé les observations de votre groupe, vous ne l'avez pas fait à ce moment-là. Donc aujourd'hui, c'est un peu étrange, alors que le PLU a été adopté et que cette zone est une OAP, donc qui encore une fois, a vocation à être urbanisée. Hein. On peut déplorer ou pas le fait d'avoir impliqué et d'avoir mis en œuvre ces OAP. Personnellement, j'en suis pas un grand fan. Malheureusement, c'est une loi nationale. Donc, quant à l'avis des domaines, il est très indicatif. Vous le savez très bien, on a eu... j'ai pas dit exactement ça, j'ai dit qu'on est tenu dans une certaine mesure. Avant, il y avait une règle de 10%, mais par exemple, vous savez très bien, puisque vous étiez là à l'époque, les terrains de la gendarmerie, par exemple, avaient été estimés par les domaines, je crois, 29 euros. La commune les a achetés 85. Par ailleurs, qu'entendez-vous par le prix du marché ? Prix du marché, c'est le prix, et c'est pour ça que j'ai dit à Bouygues, j'ai dit, écoutez, moi, je vous vendrai ce terrain au prix auquel les vendeurs privés accepteront de vous le vendre. Le prix du marché, c'est par définition le prix qu'un vendeur est prêt à accepter pour céder son terrain. Donc là, il y a eu une entente à l'époque avec les deux autres propriétaires à un montant de 228 euros. Depuis, ces propriétaires ont baissé leur prix. Moi, j'ai dit que je ne le baisserai pas. Et donc, nous sommes, dans les purs des plus ou moins 10% de l'avis des domaines. Et donc, légalement, nous pouvons parfaitement vendre ce terrain. Effectivement, comme vous le signaliez, il y aura une part importante de logements aidés, de logements d'accession à la propriété et également de locatif social dans ce programme, comme le prévoit notre PLU.
Juste concernant l'enquête publique, on a voté contre votre PLU en conseil municipal. Donc, quelque part, quoi de mieux que de voter contre votre PLU, puis on s'opposait à vos OAP par la même occasion.
Très bien. Enfin, la logique aurait voulu que vous émettiez un certain nombre de remarques lors de l'enquête publique. Elles auraient pu éventuellement aboutir à une modification du PLU. Vous ne l'avez pas fait, donc je trouve ça un peu étrange.
Mais quand il s'est agi de voter le PLU, on a fait ce type de remarques sur les OAP, monsieur le maire. D'autre part, en ce qui concerne le prix de vente, votre argument tient pas tellement, parce que là, vraiment, c'est un cadeau qui est fait à Bouygues. Vous aviez, étant donné que Bouygues ne veut pas réaliser l'aménagement à partir du moment où il ne peut pas acheter ce terrain, vous teniez le bon bout et vous pouviez parfaitement imposer votre prix.
C'est pour ça que je me suis aligné sur le prix des deux autres.
C'est-à-dire que si les domaines vous donnaient un prix de 250 euros du mètre carré, vous pouviez parfaitement imposer à Bouygues le prix de 250 euros. Il vous l'aurait même acheté à 270 euros et même à 300 euros, parce qu'il ne peut rien faire sans le terrain qui se trouve exactement au milieu des parcelles.
Monsieur De Ripper, vous avez toujours une vision un petit peu, je dirais, combative et assez pugnace de ce genre de choses. Bien évidemment, j'aurais pu obtenir quelques zéros de plus peut-être, mais là, je vous signale que d'abord, Bouygues a quand même des contraintes très importantes sur le programme, elles sont dans le PLU, c'est-à-dire ces 20% de logements sociaux, que par ailleurs, j'ai tenu, encore une fois, parce que le vrai prix, ce n'est pas le prix que vous prétendiez pouvoir avoir négocié avec Bouygues. Je ne sais pas si Bouygues aurait accepté. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai dit à Bouygues, je m'alignerai sur le prix des deux propriétaires privés, qui sont, je les connais, des gens majeurs et vaccinés, et qui ne bradent pas leurs intérêts. Donc le prix du marché, les domaines nous font souvent des estimations totalement délirantes, et vous le savez, le service a été quasiment annihilé depuis quelque temps. Il n'y a plus qu'une personne qui fait l'estimation des domaines sur le Morbihan. Elle ne se déplace même pas sur les communes. Donc moi, je ne sais pas ce qu'est le prix du marché. En revanche, ce que je sais, c'est que le prix du marché, c'est le prix qu'un vendeur accepte de le vendre à l'acheteur.
Voilà, en l'occurrence, le prix des domaines était parfaitement raisonnable.
C'est vous qui le dites, mais je n'ai pas votre compétence sur le marché immobilier carnacois. Donc je vous laisse libre de cette appréciation. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre cette cession? Qui s'abstient? Je vous remercie, le rapport est donc adopté. Monsieur Lotodé, on passe de l'immobilier à la planche à voile.
Oui, donc il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle à monsieur Loïc Lafont pour sa participation au championnat du monde de planche à voile qui s'est déroulé en Espagne fin octobre. Ce montant est de 250 euros.
Il a terminé combien, juste pour savoir si on...
44e.
44e. L'essentiel, c'est de participer, comme disait Coubertin.
Je ne saurais pas...
Est-ce qu'il y a des questions?
Juste une question. C'était pour le Yacht Club qu'il concourait ou pas?
Oui.
D'accord. Donc, une remarque. On vote des subventions donc chaque année... Et le Yacht Club donc, a reçu aussi sa subvention. Et dans les subventions du Yacht Club, il y a une partie qui est dédiée donc, aux jeunes champions. Moi, je m'interroge parce que le Yacht Club avait demandé quelque chose. Enfin, il avait demandé 6 000 euros. On a voté 5 000 euros. Alors, pourquoi revenir là en conseil municipal pour 250 euros? Je ne comprends pas. Enfin, je comprends pas qu'on donne 250 euros aujourd'hui, il valait mieux donner dans ces cas-là les 6 000 dès le départ que de revenir par petits bouts quand il y a une compétition de réaliser.
Madame Le Golvan, vous vous rendez compte de l'absurdité que vous venez de dire? C'est-à-dire qu'on aurait dû verser 6 000 euros sur aucune base plutôt que de verser, quand c'est nécessaire, 250 euros.
La base...
Attendez, excusez-moi, je termine. Oui. Pour l'argent public, c'était simplement une hérésie de faire ça. C'est un peu une hérésie en termes de protection de l'argent public. On verse 6 000 euros sur aucune base. Là, on nous le demande parce qu'il y a quelqu'un qui, à l'époque, ne s'était pas qualifié pour le championnat du monde. Il nous le demande pour participer à ses frais de voyage. Moi, je préfère verser 250 euros. Ça nous prend 10 minutes en conseil municipal plutôt que de verser 6 000 euros sans aucune...
Vous savez, monsieur le maire, dès qu'on intervient, c'est toujours soit... pas raisonnable, c'est une hérésie, c'est jamais,
mais non, mais c'est, mais
vous... c'est jamais fondé. Moi, ce que je dis, c'est
non,
que
non,
quand
mais c'est souvent,
je
c'est
vais
souvent
aller
fondé,
jusqu'au bout,
là,
je ne vous
absurde.
Coupe pas la parole quand vous avez le micro. Je pense que vous nous avez demandé d'être poli. Ben, ne me coupez pas la parole. Quand une association demande des subventions, elle les demande toujours en préalable, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas tous les compétiteurs qui auront la chance d'aller à tel championnat ou tel championnat. Mais elle fait un prévisionnel, comme une entreprise. Elle avait demandé 6 000 euros. Ce que j'étais en train de dire, c'est que dans ces cas-là, si on est obligé en cours d'année de revenir, parce qu'on a décidé, en effet, que ce jeune homme, ben c'est bien, oui, c'est méritant, mais je pense que dans ces cas-là, il faut suivre ce que demandent les associations, et en effet... Peut-être que les 6 000 euros étaient justifiés, tout simplement.
Pardon, Le rapport numéro 15 sur la reconduction du dispositif dérogatoire relatif au fonds de soutien des collectivités territoriales et certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt et des contrats financiers de structures à risque. Alors, on avait pour mémoire, M. De Ripper avait fait quelques remarques intéressantes puisqu'il n'était pas tout à fait d'accord avec la position que nous avions faite, mais je vais faire une remarque puisque je vais aller dans son sens. À l'époque, nous avions choisi de ne pas donner suite à la proposition de la SFIL puisque l'IRA, l'IRA me paraissait un petit peu trop importante. Avant de passer à ce rapport, je veux simplement vous avertir que la SFIL est revenue vers nous avec des conditions qui peuvent être révisées et plus intéressantes, puisque Monsieur De Ripper, à l'époque, vous étiez plutôt favorable à ce que nous donnions suite. Donc il est possible que ce sujet revienne au cours de l'année 2018 sur la table du Conseil municipal, puisque nous aurions peut-être une possibilité justement de faire considérablement baisser l'IRA. Donc voilà. C'est juste une information. Il est possible que ça revienne sur la table du Conseil municipal.
Justement, j'ai refait un calcul en partant sur les bases actuelles des taux qu'on peut obtenir. Le solde de l'IRA, si on compare les intérêts qu'on devrait payer en restant sur le même taux à 3,98 et les intérêts qu'on devrait payer si on est sur un taux qui peut, à l'heure actuelle, être obtenu aux alentours entre 0,70 et 1%, on a téléphoné aux banques. Non, mais Monsieur Lejean, moi je suis tout à fait d'accord pour les
indications. Pour une fois qu'on est d'accord, faut pas.
Tout à fait d'accord pour vous donner les indications dont je dispose. Hein. Et donc calcul refait, en effet, le solde serait de l'ordre de 200 000 euros. On peut recalculer, revoir la position. Ouais.
Vous connaissez le Ribor, vous connaissez l'Eonia. D'accord. Vous allez voir les taux aujourd'hui sur n'importe quel site un peu financier. Vous regardez les taux de l'Euribor et de l'Eonia. Donc 0,60, je ne sais pas comment 10, vous les obtenez. 10, je dis.
Entre 0,70 et 1%.
0,70, excusez-moi. Mais 0,70, j'ai du mal à savoir comment vous allez pouvoir les obtenir. Sur 15 ans?
Écoutez, on était sur 7 ans, là. On a tout calculé sur 7 ans.
Non, attendez, vous mélangez tout. Donc j'ai quand même bien expliqué la chose, parce que là, on est en train de mélanger tout. Sur l'emprunt qui existe sur 7 ans, on est bien d'accord, c'est de renégocier au même taux à 3,98 en taux fixe. Donc on ne change rien. On garde le même montant. On garde le même taux. On garde la même durée. D'accord? Pour renégocier cet emprunt-là, il y a 750 000 euros d'IRA. On est d'accord? Sur ces 750 000 euros d'IRA, si on renégocie le même montant sur la même durée au même taux à un taux fixe, on absorbe, grosso modo, 600 000 euros d'IRA. Il reste une soule de 150 000 euros. On en avait déjà discuté les dernières. Et les dernières, on s'est posé la question, devions-nous la sortir ou pas? D'accord? Est-ce qu'il fallait ou pas? Il y avait du pour et du contre. Vous étiez pour sortir de l'emprunt un risque. Moi, j'étais pour sortir de l'emprunt un risque. Ça se discutait. Est-ce qu'il y a vraiment un risque sur le taux ou pas? Que ce soit majorité ou opposition. Là, sur les deux parties, je dirais qu'il y avait du pour et du contre. Au jour d'aujourd'hui, la question se pose qu'effectivement, on peut envisager. Donc, le but, c'est de rentrer dans une négociation. Je l'ai expliqué l'autre jour en commission finance. J'ai donné des exemples sur lesquels on a travaillé. Le but, c'est d'approfondir. Il y a quelques questions qui ont été soulevées. Se dire, effectivement, avec un nouvel emprunt, est-ce qu'il faut ou pas? Est-ce qu'on en a besoin? Donc, on a besoin d'aller un peu plus loin dans la démarche. Seulement, aujourd'hui, la décision, c'est de se dire, d'autoriser le maire à pouvoir entrer en négociation avec la SFIL pour savoir si effectivement il y a intérêt ou pas à sortir du taux. Maintenant, un taux à 0,70%, moi, M. De Ripper, mais là, je vais même enlever la casquette d'adjoint.
Monsieur Lejean, ne nous battons pas. Si M. De Ripper a raison, tant mieux. Enfin, moi, à la limite, si d'aventure nous renégocions et que nous trouvions une solution plus avantageuse que la dernière, ce sera une situation formidable parce qu'on aura tous les deux raison. C'est-à-dire qu'on aura raison parce qu'on aura eu des conditions meilleures que celles proposées l'année dernière, et M. De Ripper aura raison parce qu'à certaines conditions, il est peut-être effectivement intéressant de sortir de cet emprunt. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder et de revenir devant le Conseil municipal avec une proposition, et on aura exactement la même démarche que la dernière fois, moi le premier, en disant oui, non, voilà, en fonction des conditions. Ça vous va ? Je vous propose donc de passer directement au rapport, monsieur Lejean.
Sur quel principe on a une remise de 600 000 euros ? En vertu de quoi on a signé une remise de 600 000 euros sur les 758 ?
Donc là, on est normalement au numéro 15, c'est la reconduction du dispositif d'aide dérogatoire relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales. Je vais jusqu'au bout. Non, tu m'as posé la question, je vais. Lorsqu'il y a eu le problème de la banque Dexia, si vous voulez, l'État français est actionnaire, d'accord ? Il y a des collectivités qui se sont retrouvées dans des positions très compliquées, puisqu'il y avait des emprunts dits toxiques, ce qui n'est pas le cas de la commune de Carnac. Et donc l'État s'est engagé à abonder dans les taux d'intérêt pour sortir les collectivités de ces emprunts toxiques en renégociant. Avec d'abord un fonds de soutien, que ce qu'on est en train de voir dans le chapitre 15, donc de reconduire le fonds de soutien, et d'abonder dans les taux pour effectivement pouvoir absorber une partie de l'IRA dans le nouvel emprunt. Donc quand aujourd'hui on nous propose de faire le même montant de l'emprunt au même taux, sur la même durée, mais sur un taux fixe, et qu'on a absorbé à la hauteur de 600 000, c'est-à-dire 80% de l'IRA qu'on devrait payer, c'est l'État indirectement qui bonifie le taux et qui le prend en charge. Voilà comment c'est fait. C'est une bonification de l'État du taux, qu'on nous, on ne le voit pas, puisqu'on reste au même niveau, on se dégage d'une problématique, et la bonification vient effectivement financer l'IRA au travers de la SFIL.
Oui, enfin, avec quand même en contrepartie l'obligation d'emprunter un taux plus cher que le marché.
Non, attends. Ah oui, tout à fait. Alors, on va. Comment. Parce que là, tu la prends de la façon que tu as envie de nous présenter ça. Aujourd'hui, on a un taux de 3,98. On est d'accord. Je vous rappelle qu'à l'époque, on a fait cet emprunt-là, et cet emprunt-là, à l'époque, économisait 300 000 euros à la commune par rapport à un taux du marché. On est d'accord ? Aujourd'hui, le taux du marché, 0,70, je le trouve un peu faible. Sur une durée, je vais dire d'une dizaine d'années, on se trouve plutôt entre 1,50 et 2... pardon, pas 1,50. 1,50% et 2%. Enfin, pour mon point de vue, mais bon. Maintenant, si les banques ne gagnent plus d'argent, ne prennent plus de marge, ça serait nouveau, ça. Il faudra qu'on m'explique. J'ai dû rater un épisode. Mais grosso modo, c'est à peu près ce qu'il y a. Et derrière, effectivement, là, on absorbe dans l'IRA une partie. Mais le taux de 3,98, on l'a aujourd'hui. Donc le but n'est pas de dire je vais rembourser, anticiper le remboursement de mon emprunt pour aller réemprunter un emprunt moins cher, j'aurai quand même de l'IRA à payer.
Ce n'est pas le sens de ma question.
Pardon, excuse-moi, je n'ai pas bien compris.
Donc si on emprunte 3,8 millions à taux fixe de 3,98, est-ce qu'on a cette possibilité avec une remise de 600 000 euros de l'IRA à condition derrière, de faire un emprunt à taux bonifié, entre guillemets, c'est ce qu'on avait parlé en commission finances, de 2 millions et demi à 2 ou 2,5%. Est-ce que ces opérations sont obligatoirement liées,
non.
Ou est-ce qu'on est libre de souscrire 3,8 millions à 3,95, 3,98 fixe, avec la remise de 600 000, et est-ce qu'on est libre après de l'emprunter au taux un taux négocié avec n'importe quel organisme bancaire.
On peut faire les trois choses. Donc, c'est-à-dire, les trois choses, c'est simple. C'est soit on renégocie le prêt existant à 3,98 et on le fige, et on a 140 000 euros à payer. Qui nous reste d'IRA à payer, puisque l'IRA est à 700, j'arrondis, ou 150 000, si vous préférez. 750 000 d'IRA, à l'heure actuelle. On a 600 000 qui sont absorbés dans le prêt. Il reste un solde de 150 000. Donc, on paye les 150 000. L'affaire, les clauses terminées. On n'en parle plus. Ou effectivement, on décide d'aller faire un autre emprunt et de demander que dans l'autre emprunt, les 150 000 soient aussi absorbés. Et là, on bénéficie du taux de la SFIL bonifié. Bon, apparemment, là-dessus, voilà, moi, je ne suis pas un expert. Okay. Ou, dans ces cas-là, on décide de payer les 150 000 euros et de refaire un emprunt en ayant le taux le plus bas possible. Il y a les trois choix. Le but, c'était que l'opération soit neutre pour les finances de la commune. Aujourd'hui, on avait un emprunt structuré qui a quasiment peu de risques. Je vous rappelle, il nous reste 7 ans dessus. Dans à peu près 3 ans, il n'y aura plus aucun risque. Puisqu'on a fait une économie de 300 000 euros au départ. Si dans les... passer les 3 ans, c'est-à-dire dans les 4 dernières années, le taux dérape, ça sera beaucoup moins grave puisqu'il nous restera très peu d'intérêt à payer. Et donc, le taux dérapera sur le peu d'intérêt qui reste à payer. Et par rapport à l'économie de départ, ça sera quasiment nul. on sera toujours gagnant. Maintenant, de maintenant jusqu'à 3 ans, est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est important? Certains considèrent qu'il n'y a pas de risque, et aujourd'hui, nous n'en avons pas eu, jamais eu. Il y a quand même cette problématique qui existe. Aujourd'hui, il y a une solution pour en sortir à moindre coût, voire néant. Vous dis que ça vaut le coup de l'étudier.
Tout à fait. Monsieur Lejean, je propose tout ça, c'est vraiment des discussions de commission finance. Hein, c'est, d'ailleurs, la commission finance sera évidemment amenée à se parler sur le dispositif. Aujourd'hui, on parle simplement de rouvrir des éventuelles négociations pour revenir devant le conseil municipal avec une proposition. Monsieur De Ripa.
Oui, donc si je comprends bien ce qu'on vote, on reste dans le régime dérogatoire.
Oui, alors...
C'est ça qu'on entend voilà, voter. Voilà,
ce qu'on vote, c'est simple. C'est
deux choses.
Pascal. La première chose, c'est une information, c'est-à-dire qu'on va peut-être, si les propositions sont bonnes, éventuellement repartir dans une négociation avec la SFIL avec des meilleures conditions que l'année dernière, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de revenir avec les mêmes. Mais là, le rapport, c'est uniquement, bien sûr...
On reste dans le régime dérogatoire.
Et vous avez raison.
Et vous, de votre côté, vous engagez à essayer de renégocier l'emprunt pour sortir de l'emprunt à taux variable.
Exactement. C'était juste une information sur le sujet.
Avec une petite chose en plus, monsieur de Ripper, c'est que dans ce qu'on va voter tout de suite, dans le régime de reconduire, le régime dérogatoire de reconduire, si demain on solde le prêt, on va aussi bénéficier de ce régime-là qui correspond à 10,75% de l'IRA qu'on va payer sur 750, vous le faites, 80 000 euros, mais qui sera versé tout au long de la durée du prêt restant. Donc on aura 9 000 euros, 80 000 euros de subvention, 9 000 euros qui sera versé par an. À peu près, qui est la cerise sur le gâteau, si vous préférez.
Okay. S'il y a... Monsieur Bonduel, il y avait une question.
Est-ce qu'on a un délai pour prendre les options?
Il faudra le faire avant le 1er mars. On travaille... notre prêt est en échéance au 1er décembre de chaque année, excusez-moi. Et quand on veut effectivement le modifier, c'est à chaque échéance de chaque trimestre. Même s'il est payé à l'année. Donc au 1er mars.
Merci pour toutes ces précisions, monsieur Lejean. Je vous propose donc de passer au vote, donc qui ne porte, comme le disait monsieur De Ripper, uniquement sur la reconduction du dispositif dérogatoire pour une nouvelle période de 3 ans sur le prêt dont vous trouvez les références. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe donc au rapport numéro 16. Monsieur Marc Albert, il s'agit d'une évolution de la législation nationale sur le stationnement.
La nouvelle loi sur la dépénalisation, on a du stationnement payant.
Gérard.
Bonjour. Donc c'est pour la dépénalisation. On a du stationnement payant dans le secteur du bourg et de la plage. Et donc, le caractère payant du stationnement est déconnecté du champ de la police municipale et devient une question domaniale. L'usager n'acquitte plus un droit de stationnement institué par le maire, mais d'une redevance d'utilisation du domaine public relevant de la compétence du conseil municipal. C'est la loi MATAM du 1er janvier 2018. À compter de cette date, aucune amende pénale de première classe de 17 euros ne pourra être émise à l'encontre d'un automobiliste en défaut de paiement. La loi prévoit désormais qu'un automobiliste qui n'aura pas spontanément payé la totalité de la durée du stationnement se verra facturer un forfait post-stationnement. Donc il doit y avoir un tableau qui va s'afficher, qui peut vous expliquer un peu comment ça se passe. Non ?
Le tableau.
Ça veut dire aujourd'hui, il y a des endroits à Carnac où on peut stationner 3h30 et des endroits où on peut stationner 7h30. Au bout de le délai passé, on laissera encore 10 minutes de plus aux voitures qui seront stationnées et on verbalisera au prix de 35 euros, qui est le prix réglementaire maintenant pour les stationnements des zones bleues. Si les gens payent tout de suite et qu'ils vont directement à l'eurodateur dans les 72 heures après être verbalisés, ils auront un tarif réduit à 20 euros sur lequel sera enlevé le prix du stationnement qu'ils auront déjà payé. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà payé 3 euros de stationnement ne payera plus qu'à l'eurodateur 17 euros. Si tout le monde comprend, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Hein. Je suis désolé.
Nous sommes en France, Gérard. Rien voilà, est simple dans ce beau pays.
Donc, À l'absence de paiement ou de paiement insuffisant, un avis FPS sera donc notifié à l'usager par voie postale ou par dématérialisation. Et ce sera l'agence Antai qui s'occupera de récupérer les paiements qui n'auront pas été effectués dans les 72 heures aux eurodateurs. Les automobilistes pourront contester l'avis de paiement ou d'un forfait post-stationnement. Pour cela, ils devront introduire un recours administratif préalable et dans un délai de mois après la date du forfait. Donc, vu l'avis favorable de la commission de travaux environnement et sécurité du 27 novembre 2017 et celle de la commission des finances du 28 novembre, il est proposé au conseil municipal de fixer comme suit les tarifs qui s'appliqueront à l'ensemble des usagers sur l'ensemble des zones payantes à compter du 15 juin 2018, d'instaurer l'application de l'article 2333-87 du Code général des collectivités territoriales, le barème de la redevance tarifaire pour les zones de stationnement et du forfait post-stationnement à compter du 1er janvier 2018. Et le maire de signer l'ensemble des documents à intervenir.
Merci. Donc, vous l'aurez compris, pour ceux qui ont compris, la loi MAPTAM
a
deux volets. D'abord, une dépénalisation et ensuite une décentralisation de la responsabilité vers les communes. Alors, ça va surtout impacter les grandes villes comme évidemment les grandes métropoles qui vont pouvoir, pour certaines d'entre elles, là où le stationnement est déjà très cher, fixer eux-mêmes leurs tarifs, ce qui n'était pas le cas tout à fait jusqu'à présent, en tout cas ce qui était beaucoup plus encadré par la loi. Et donc, cette réforme est une réforme nationale, évidemment, que toutes les communes vont devoir faire passer dans leur règlement communal. Est-ce qu'il y a des questions sur ce... Monsieur Dripper ?
Oui, alors... Nous allons voter contre. Alors, pas contre la loi, ni l'application de la loi, qui aboutit d'ailleurs... une véritable usine à gaz. Nous sommes contre, on l'a déjà dit en commission, nous sommes contre la période qui a été retenue et qui est retenue pour le stationnement payant, c'est-à-dire la période qui court du 15 juin jusqu'au 15 septembre. On a toujours demandé, et pas seulement l'opposition, en commission, que cette période soit réduite à juillet-août, et uniquement juillet-août. Bon, d'autre part, nous sommes... Pardon ? Non, mais allez-y, monsieur Legendre, si vous avez
continuez, monsieur Dripper.
Et de plus, comme nous l'avons déjà dit, nous sommes opposés au stationnement payant pour les Carnacois. Donc, pour ces deux raisons, nous allons voter contre.
Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame Bagarre.
Oui, je voulais poser une question, parce que, en effet, c'est très compliqué. Hein. Je suis d'accord avec monsieur Marc Albert. Mais alors, quelqu'un qui est de passage... Il est informé de quelle manière de tout ce processus. Il ne peut pas revenir payer à l'eurodateur, parce qu'il n'est pas encore rentré chez lui, il n'a pas eu l'avis.
Si l'avis est posé, la vie est posée sur la voiture. D'accord. Et comme c'est une loi qui commence au 1er janvier 2018, toutes les communes de France qui ont des stationnements payants auront le même processus. Alors il y a des communes qui, justement, font des tarifs, entre parenthèses, réduits de la contravention. Et d'autres qui ne le font pas. On prend Quiberon, c'est 35 euros, que vous ayez passé 10 minutes ou que vous y restiez. Même si vous allez payer l'eurodateur, ce ne coûtera pas moins cher. Et vous avez par exemple la Trinité qui, eux, font à 20 euros et que vous payez tout de suite ou pas tout de suite, on ne vous déduira pas le paiement du stationnement que vous avez déjà fait. Donc c'est un peu compliqué. Chacun ne fait pas un peu ce qu'il veut, mais je veux dire, bon, c'est un peu... Toutes les communes ne font pas pareil, donc c'est un peu compliqué. Mais ce sera marqué sur les eurodateurs que les gens qui seront punis parce qu'ils ont payé un peu trop tard et qu'ils n'ont pas payé assez, pourront justement aller payer à l'eurodateur, surtout les eurodateurs de la commune. C'est-à-dire que si vous êtes pénalisé au bourg, vous pourrez aller payer le lendemain à la plage si vous avez envie, c'est pas gênant. Vous aurez 72 heures pour payer.
Oui, mais enfin, je ne pense pas tellement aux habitants de... Enfin, si aux habitants de Carnac, mais tous les gens qui passent, qui ne font que passer...
Et quand vous irez à Vannes et que vous irez à Paris.
Déjà, les zones bleues, le temps de la durée pour laquelle on est autorisé à stationner, elle change d'une ville à une autre. Je regarde peut-être pas, mais j'ai pas vu d'indication.
Ben, allez voir, ils doivent y être. Hein. Normalement, ils y sont. C'est la zone bleue, il y a marqué le temps et les horaires dans lesquels il faut mettre le disque.
Hein. Partout. Hein.
Sauf erreur de ma part, oui. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour les stationnements en zone bleue, ce sera 35 euros. Et là, on payera 35 euros directement et ce sera pas, on n'aura pas les tarifs réduits comme les zones payantes.
Gérard, juste une question. On a 10 minutes. On aura 10 minutes de...
Voilà, on n'est pas des... Voilà. Donc, quand on arrive et qu'on reste une heure, deux heures, trois heures, sur le tableau de gauche, par exemple, on a la première demi-heure gratuite, surtout les stationnements payants de Carnac. Et si le policier municipal passe et que ça vient juste d'être passé, on dit rien, maintenant on laissera 10 minutes, parce qu'on peut avoir 10 minutes de retard. Après, parti de là, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, sinon ça sort plus, on a une demi-heure avant, une demi-heure après. Et le but du jeu, c'est de faire la rotation des voitures sur les zones payantes. Donc si on met une heure d'un côté, une heure de l'autre, on ne peut pas. Il faut savoir aussi que si vous venez stationner et que vous avez la première demi-heure gratuite, si deux heures après vous revenez, vous pourrez remettre l'immatriculation de la voiture. Vous pourrez restationner, vous payerez, mais par contre, vous n'aurez pas la demi-heure gratuite. La demi-heure gratuite est donnée une fois par véhicule à rapport d'immatriculation. C'est par jour, oui.
Ok, je vous propose de passer au vote. Donc, il y a, j'ai bien compris, des votes contre, s'il vous plaît. Merci. Des abstentions. Merci, ce rapport est donc adopté. On reste dans le stationnement et dans la loi MAPTAM. Monsieur Marc Albert, avec cette fois-ci la convention relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement avec la fabuleuse Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
Voilà. Là, c'est juste quand les je vais vous faire court, juste quand les gens ne payent pas leur punition et qu'ils restent et qu'au bout de 72 heures ils n'ont pas payé, après ils peuvent payer 35 euros. Et si au bout d'un mois ils n'ont pas payé leurs 35 euros, en taille, on envoie les documents en taille, c'est en taille qui s'occupe justement de récupérer l'argent pour la commune. Et Antag ne fait pas de bénéfice là-dessus. Ils nous font payer vraiment ce qu'il y a à payer. Il y a un tableau un petit peu plus loin qui le dit. Donc, c'est 0,97 par pile envoyé, 0,84 par envoi des dématérialisés. Et puis, ils refacturent juste ce qu'ils doivent avoir. Ils ne doivent pas faire de bénéfice dessus. Voilà.
Les 35, ils deviennent quoi?
Les 35 sont payés 35, puisque vous n'avez
pas... Si on ne paye pas.
Si on ne paye pas, après ça va au tribunal et ça continue dans le système. Et puis, et ça monte, je ne sais pas. C'est le tribunal qui décidera. Donc, il y a un calcul savant qui est un petit peu plus bas, si vous voulez le voir, mais...
Ouais. Ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention avec l'ANTAI? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Le rapport est adopté. Je vous remercie. Monsieur Lejean, Office du tourisme, reversement de la taxe de séjour 2018. Encore un marronnier.
Non, c'est très simple. Donc, il est proposé au Conseil de voter le versement de la taxe de séjour 2018 à la hauteur de 510 000 euros pour 2018. Et au lieu d'être versé sur 10 mensualités, on a simplifié pour être versé par trimestre, donc 4 trimestres.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette... Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Toujours l'Office du tourisme, Monsieur Lejean, l'avenant à la convention d'objectifs et de moyens, c'est la première, il y en a une également pour le CCAS, je crois.
Tout à fait. Donc là, c'est ce que vous notez, ce qu'on avait discuté un petit peu tout à l'heure pour la Chambre régionale de la Cour des comptes. Donc il est mis en place un système de loyer de 4 565 euros pour l'Office du Bourg et un loyer de 10 270 euros pour l'Office de la plage. Celui-là ne démarra que au 1er avril, si je ne dis pas de bêtises, puisque je vous rappelle que l'Office de la plage est en travaux et donc il sera livré pour fin mars. Donc c'est sur 9 mois, début mars, donc c'est sur 10 mois. Je ne savais plus si c'était début mars ou début avril. Donc, il a été mis en place, si vous voulez, à la commune, une méthode de calcul pour l'occupation des domaines publics communaux. Donc, il y a quatre façons de calculer, comme l'a demandé la Chambre régionale de la Cour des comptes.
Madame Le Golemont, vous aviez une question?
Une remarque. On avait décidé d'un loyer, il me semble, de 12 000 euros pour l'Office du Bourg. Et 20 000 pour celui de la plage, qu'est-ce qui fait qu'on soit revenu en arrière?
À la méthode qui a été retenue lors de la gestion du transfert de compétences à ACTA, où il retenait 30 ans d'amortissement ou du moins d'évaluation du bâtiment. C'est ce qu'on a pris. Voilà pourquoi ça diminue, au lieu de 20 ans qui avait été calculé avant, que j'avais pris sur une base, ce qui existait dans le privé.
Monsieur Derrida. Il y a une deuxième modification, c'est la suppression du montant minimum de l'engagement relatif à la participation financière. En fait, c'est la suppression du montant minimum de la subvention. C'est ça ?
Du montant. Alors, excusez-moi, là, parce que là, je ne vous suis pas.
C'est ce qui est marqué. La suppression du montant minimum de l'engagement relatif à la participation financière de la commune à l'office de tourisme au titre de la délégation des missions de service public. Donc c'est bien une subvention, ça.
Bah, si vous voulez, la subvention aujourd'hui, l'office du tourisme...
Excusez-moi, je termine. Donc elle est de 35 000 euros, minimum 35 000 euros.
Ça, c'était la subvention des animations.
Voilà.
On est bien d'accord, donc, qui existe toujours.
Oui, mais on supprime le montant minimum, c'est bien ça ?
Alors, effectivement, il y avait mis un montant minimum à l'époque. Oui, aujourd'hui, on peut supprimer. Honnêtement, je vais être clair avec vous, je découvre cette phrase-là.
Vous découvrez oui. La délibération qu'on entend de voter ?
Tout à fait. La phrase, pas la délibération.
Ah, la phrase.
Oui, bon, excusez-moi.
Non, attendez. Non,
nous emmenez pas sur ce terrain-là.
Monsieur le maire, je pose la question.
Oui,
je pose une question, monsieur Lejean me répond qu'il n'est pas au courant.
C'est bon.
Monsieur Lejean, il vous dit honnêtement qu'il découvre la phrase.
Pascal, deux secondes, monsieur de Ripper. Ça peut arriver à tout le monde. Je crois qu'on s'est retrouvé une fois devant le juge parce qu'il n'y avait pas les bons noms en face des photos sur une liste électorale. Donc, s'il vous plaît, arrête, c'est pas la peine de faire les grands airs parce qu'effectivement, honnêtement, l'adjoint vous dit que, bah oui, il n'avait pas vu cette phrase.
Les grands airs, mais monsieur le maire, ça, à nouveau, c'est un jugement, ça. À chaque fois qu'on pose une question, à chaque fois qu'on fait une remarque, il faut tout de suite que.
Je ne réagis pas sur la question, je réagis à la remarque que vous faites sur le travail de monsieur Lejean.
De plus, monsieur le maire, c'était une discussion apparemment entre monsieur Lejean et moi. Ça ne va pas être du tout l'air de choquer monsieur Lejean, que j'étais en train de dire. Alors pourquoi voulez-vous absolument intervenir ?
Non mais...
Donc,
écoutez,
je repose ma question parce qu'elle a quand même une certaine...
Il n'y a plus de minimum.
Elle a quand même une certaine importance. Ça veut dire que maintenant, on a une subvention...
Il n'y a plus de subvention minimum qui était inscrite avant, qui était liée à l'animation, qui est à la hauteur de 35 000 euros. Ouais. Effectivement, elle n'existe plus en termes de minimum puisqu'elle sera... effectivement, vu tous les ans au montant qui sera décidé.
D'accord. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, ça veut dire qu'on a une subvention dédiée
aux animations. Tout à fait.
Et ça veut donc dire que dans le budget, on aura la liste des animations et la liste des coûts des animations.
Bah,
de
comme,
façon à ce que cette subvention corresponde.
Comme ce qui a été voté au CODIR. Hein. Madame Golvan peut vous le dire. Hein. En général, les animations qui sont faites par l'Office du Tourisme ont été votées par le CODIR.
Je peux me permettre, monsieur le Président, la subvention des animations ne couvre pas la totalité des animations réalisées par l'Office de tourisme. On est bien en deçà de ce qu'elle représente. Donc on a chaque année dans le plan d'action à la fois le montant, le déroulé des animations qui vont être réalisées et la somme globale que ça représente. Et la subvention ne couvre pas la totalité, bien heureusement.
Bah, écoutez, Mme Moreau, moi je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai pu me tromper. Hein.
Non, c'est dans le budget de l'Office, monsieur. Oui.
Bah, j'ai pu me tromper, donc...
Voilà, mais le budget de l'Office,
je le rechercherai.
Madame Le Golvan doit l'avoir.
Mais comme on va le voter d'ici peu, de toute façon, on pourra en discuter à ce moment-là.
On peut passer donc au vote sur cet avenant à la Convention d'objectifs et de moyens. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 20, Monsieur Lejean, sur la Convention de valorisation des mises à disposition, cette fois-ci pour le CCAS.
Tout à fait, c'est dans le même état d'esprit. Donc, je vous rappelle, c'est tout ce que le CCS, derrière l'occupation des bâtiments, les consommables, et aussi tous les services que utilise le CCS au niveau de la mairie, entre autres les services de ressources humaines. Donc, il est prévu de mettre en place une convention pour ces échanges-là que nous avait demandé la Chambre régionale de la Cour des comptes pour que ce soit transparent.
J'ai une seule question, c'est le montant du loyer. 416 euros. Il a été calculé avec le même calcul...
Combien vous avez dit ?
416 euros par mois, mensuel, 5000 euros annuel.
Oui,
donc
tout à fait.
Donc 416 mensuels. Il a été calculé avec...
Je vais vous répondre, monsieur de Ripper, parce qu'effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme on a voté le budget du CCAS avant et que ça n'avait pas été pris en compte, cette année, on ne va pas avoir le même calcul, mais on imposera à peu près le même calcul l'année prochaine. Il faut simplement aller faire l'inventaire des mètres carrés, mais l'année prochaine, on régularise la situation. Mais c'était pour ne pas mettre en difficulté le CCAS qui avait voté son budget avant.
Non, mais nous étions tout à fait d'accord sur la démarche, mais un peu étonnés par le montant du loyer.
Oui, tout à fait.
Alors, il faut aussi savoir une chose, si vous voulez, c'est qu'on a parlé de l'Office du tourisme tout à l'heure. L'Office du tourisme, ils ont été rénovés. Donc, on part sur la base d'une rénovation.
On est d'accord? Je vous ai expliqué la différence par rapport à l'année dernière. Au niveau des 30 ans, le CSAS s'occupe d'un bâtiment qui existe, qui est assez ancien, nous sommes tous d'accord pour le dire. Donc effectivement, on ne va pas appliquer pour le CSAS, pour ce type de bâtiment, le même coût qu'on peut appliquer pour un bâtiment qui a été rénové. C'est tout.
Bon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre pour cette convention de valorisation et mise à disposition du CSAS? Des abstentions? Le rapport est adopté, je vous remercie. On termine la série avec le yacht club, monsieur Lejean.
Donc sur le yacht club, il a été mis une convention en place pour la mise à disposition des locaux et du terrain, puisque je vous rappelle, il y a le terre-plein aussi qui est utilisé par le yacht club. Et là, il a été tout simplement repris ce qui existait il y a quelques années en arrière et réactualisé au goût du jour, dans l'attente de la rénovation du bâtiment qui sera faite dans les années à venir. Et que là, reprendra le même calcul qu'on a vu tout à l'heure.
Là, vous parlez de la rénovation du bâtiment, là.
Oui.
Parce que quand on lit bien la convention, alors vous me dites que c'est la copie conforme de celle qui avait été signée auparavant, que je n'ai pas, mais quand on lit bien la convention, les engagements de la commune vis-à-vis du yacht club, ça représente à peu près 6 lignes, et les engagements du yacht club vis-à-vis de la commune, ça représente 3 pages. C'est un petit peu déséquilibré, quand même. C'est-à-dire que nulle part dans cette convention, il n'est fait allusion justement à la rénovation du yacht club, au fait qu'en effet, il y a des travaux nécessaires à faire, parce que c'est un bâtiment qui est quand même vétuste, et d'ailleurs, il s'engage dans la convention à répondre à toutes les demandes concernant la salubrité et l'hygiène, et je ne vois pas bien comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire, ou alors ça va leur coûter très très cher. Donc je suis un peu étonné, je trouve que c'est un peu léonin comme contrat.
Déjà, la convention que vous avez a reprend les termes qui existent avant. Je vous rappelle que le lieu de club y est depuis 1964 dans ce bâtiment.
Mais pourquoi dans cette convention est-ce qu'on ne fait pas allusion justement à des engagements de la mairie concernant...
Parce que derrière, il y a un groupe de travail qui est en train de se mettre en place avec la nouvelle direction du yacht club pour travailler effectivement sur la rénovation du bâtiment complet. Mais ça a été vu lors d'un codir au niveau du yacht club, il n'y a aucun problème. L'ensemble des membres sont courants du yacht club. Et les noms... Excusez-moi. Et les noms, les gens qui participent à ce groupe de travail, ils ont été donnés par le lieutenant.
Oui, mais comme vous savez, ce n'est pas un de nous, ni moi-même, qui représentons la municipalité au yacht club.
Avez-vous des doutes sur...
C'est bien, je me suis présenté...
Avez-vous des doutes sur la future gestion du yacht club, monsieur de Ripper?
Bien sûr.
Dans les yeux, avez-vous des doutes sur la future gestion du yacht club?
Vous me dites, ça s'est dit au codir. Je sais bien, mais j'y ai pas assisté au codir.
Bon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Il y a des abstentions, donc. Merci de lever la main. Et donc, le rapport est adopté. Monsieur Jean-Luc Servet, le rapport numéro 22 sur le lancement du marché de maîtrise d'œuvre, réhabilitation, la liaison Bourg-Plage et secteur Nord-Église. Juste avant 20h15. C'est pas remarquable comme gestion du temps?
J'ai noté le timing formidable. Merci, monsieur le maire. Concernant la rénovation et ce lancement de marché de maîtrise d'œuvre, donc il porte sur la rénovation suite à la rénovation du bourg amorcée par le traitement rue Saint-Cornélie et Sud-Église, on souhaite poursuivre ce réaménagement par le secteur Nord-Église d'une part, et d'autre part poursuivre vers le sud par une liaison vers le secteur plage, notamment en portant un projet de création d'une piste cyclable en site pop. Pour ce faire, la commune doit bien entendu confier les études à un maître d'œuvre. Pour donner la cohérence à la réflexion, il est proposé de lancer une consultation de maîtrise d'œuvre commune à ces deux aménagements, définir un périmètre qui englobe donc les secteurs place nord de l'église, l'entrée de la Venelle du Puy, la Venelle de l'Enfer, la rue du Tumulus jusqu'au niveau du parking des Lucioles et l'avenue de la Poste, depuis le sud bourg jusqu'à l'entrée du giratoire des Salines. Les objectifs que l'on souhaite donner à la maîtrise d'œuvre, c'est bien entendu sur le secteur place de l'Église de renforcer le confort du piéton, élargir et revoir les circulations véhicules et piétonnes sur la place et notamment autour de l'office de tourisme, créer un espace partagé, permettre l'accueil d'animations ou d'événements, mettre en valeur l'église Saint-Cornélie, optimiser le stationnement et donner une meilleure visibilité à l'entrée du parking des Lucioles, intégrer le réaménagement des voies adjacentes inclus dans le périmètre que l'on vient d'évoquer, reprendre le traitement dans l'esprit, je dirais, architectural, reprendre le traitement de principe de l'entrée de bourg sur les rues Saint-Cornélie et Sud-Église pour une cohérence globale. L'avenue de la Poste, l'objectif donné au maître d'œuvre est de respecter, est en cohérence avec les traitements déjà réalisés dans le secteur bourg, créer une piste cyclable séparée du flux automobile en site propre, de créer un lien avec le jardin de Césarine et de gérer la fluidité, la sécurité de la circulation, que ce soit les flux piétons, cyclistes ou automobiles, selon les différentes typologies saisonnières, et optimiser le stationnement. L'enveloppe financière prévisionnelle de travaux est estimée à 1 120 000 euros hors taxes, soit 1 344 000 euros TTC.
Question sur ce lancement de marché de maîtrise d'œuvre, Monsieur Daripa.
En commission finance, l'enveloppe était de 2,3 millions, mais elle comprenait aussi le boulevard de l'Atlantique. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez sorti de l'étude le boulevard de l'Atlantique?
Bah parce qu'en termes de charges pour les services, c'était un peu beaucoup, en fait.
L'étude?
Oui, bah l'étude et même la réalisation. Donc on va attendre de faire ça avant de lancer l'étude suivante, parce que là, il y a beaucoup de travaux qui vont être lancés sur la commune. Les services techniques ne sont pas non plus démultipliables. Ils sont déjà, je pense, et en fait, quand on a commencé à réfléchir, on s'est dit, et sur les conseils d'ailleurs des agents, que c'était un petit peu lourd de lancer tout ça en une seule fois.
C'est une observation qui émane aussi de la commission aménagement cadre de vie. C'était l'ampleur globale du projet, donc il était préférable de saucissonner, on va dire, en plusieurs secteurs.
Par contre, la logique, évidemment, est de faire cette continuité, si possible, avant la fin du mandat. Mais enfin, on verra bien. Il y a quand même des gros travaux qui vont être lancés.
Donc, sur la nécessité des travaux, on est tout à fait d'accord. Par contre, on aurait préféré... On est d'accord pour engager l'étude aussi. Par contre, on n'est pas tout à fait d'accord sur l'enveloppe. On pense qu'il aurait déjà fallu nous faire voter sur l'engagement de faire les travaux, sur l'étude, et ensuite, après la présentation d'un projet global, on aurait voté notre approbation. Alors que là, on a tout en train de, on mélange tout. Donc on va s'abstenir.
Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce rapport? On passe au vote, donc il n'y a pas de vote contre, si je comprends bien. Les abstentions? Merci. Le rapport est donc adopté. Donc il y a une abstention dans la majorité à relever. On va passer à le lancement du marché de maîtrise d'œuvre du Carrefour de Rosnual, Monsieur Marc Albert.
Donc le secteur du Carrefour de Rosnual est un endroit où il passe quand même 13 000 voitures au jour dans les deux sens. Donc je pense qu'il est utile de faire des travaux. Il y a beaucoup de gens qui réclament, il y a beaucoup de campings autour. Donc on va lancer un marché de maîtrise d'œuvre pour gérer la fluidité et la sécurité de la circulation de tous les axes, en tenant compte des propositions des services de la route et des transports du conseil départemental. Répondre au maximum des flux possibles sur le giratoire, en supprimer un maximum de carrefours, accès direct sur la départementale. Vous savez qu'il y a déjà la route qui va vers le Moustoir et puis... c'est un peu tout compliqué pour rentrer et sortir. On va gérer l'accès direct des riverains sur la départementale en toute sécurité, favoriser les cheminements doux et permettre le chargement et le déchargement des scolaires et des voyageurs en période estivale. On a vu sur le plan à la commission de travaux qu'il allait y avoir deux arrêts bus, un partant vers Auray et un revenant sur Carnac. Ça permettra également à la carnavette de pouvoir aller jusqu'à là. Donc, c'est la création d'un giratoire avec 4 branches, avec un diamètre extérieur de 30 mètres minimum et un anneau du centre de 8 mètres de large. L'aménagement de voirie, la signalisation horizontale et verticale, l'aménagement paysager des abords et du centre du giratoire, la gestion et la réhabilitation des réseaux d'eau pluviale, la création, je vous disais tout à l'heure, de 2 arrêts bus et la fermeture de l'ancien accès direct sur la départementale pour l'accès aux riverains pour aller au Moustoir. L'enveloppe prévisionnelle est de 450 000 euros hors taxe. Pour ce faire, on doit confier les études à un maître d'œuvre. L'avis favorable de la commission de travaux qui s'est réunie le 27 novembre et celle des finances le 28 novembre également.
Des remarques ou des questions sur ce rapport? Monsieur Bonduel.
Donc là, on ne parle pas de la liaison douce entre le rond-point de Rosnual et l'entrée de Carnac. C'est pas inclus dans le dossier.
C'est pas inclus dans le dossier, mais comme je disais tout à l'heure, peut-être je n'ai pas dit, c'est que comme il y aura des espaces verts sur le côté, on avait parlé en commission de travaux, on mettra des racks à vélo qui seront là. Pour l'instant, pour les gens qui voudront prendre la carte navette, et une étude est en cours. J'en ai parlé aussi en commission de travaux. Sur la commission de travaux, on a parlé que j'allais faire une réunion spéciale pour les circulations douces à Carnac, peut-être avant la fin de l'année ou à fin janvier. J'en ai parlé à M. De Riffer à la dernière réunion. C'était sur le compte rendu. Donc on en reparlera. Il y a des accès qui sont plus ou moins faciles, des largeurs de voies qui le permettent ou qui ne le permettent pas. Vous savez que pour faire passer les piétons, c'est 1,40 m minimum. Les vélos, c'est 1,50 m minimum. Ça fait déjà 3 mètres. Donc 3 mètres de chaque côté, il faut voir si ça rentre. Si on fait une piste cyclable à double sens, c'est pas 1,50 m, mais c'est 3 mètres. Et après, il faut mettre un îlot entre les deux pour séparer, pour sécuriser un petit peu. Donc ça fait des largeurs à rajouter. Et il faut être sûr que si on commence au rond-point de Rosnuval, on puisse arriver à l'autre rond-point, parce que s'il y a des endroits où ça passe pas, et si on n'est pas propriétaire des terrains, il faut prendre le temps de les acheter. Donc j'ai bien dit qu'on aurait une réunion ou fin d'année ou fin janvier à ce sujet-là, sur les circulations douces.
Mais c'est un très bon point. Je pense qu'à cet endroit-là, il faudrait se fixer comme objectif. Alors c'est une départementale. Déjà, le rond-point de Rosnuval a pris un peu de retard parce qu'il a fallu négocier avec les propriétaires, parce qu'il y a de l'acquisition foncière. C'est jamais facile de négocier, Gérard et moi, on le sait. Mais effectivement, dans l'absolu, compte tenu de la présence de Rosnuval, il y a quand même beaucoup d'enfants. Ça va déjà sécuriser le carrefour en termes de sécurité routière, c'est une évidence. Mais la situation idéale, ce serait de pouvoir implanter une piste cyclable en site propre, si possible à double sens, entre ce nouveau rond-point et celui de la Croix-Audran, c'est clair. Philippe.
Les travaux pourraient commencer quand, Gérard ?
Les travaux pourraient commencer et devraient commencer, dans le sens où tu veux. C'est octobre l'année prochaine. De 5-6 mois. Ça n'est pas à l'allure où ça va et ce qu'on trouve dans les terrains. Parce que comme on va dévier un petit peu la route départementale et on ne sait pas ce qu'il y a sur les terrains qu'on est en train d'acheter. Après, il y a les sous-couches de voirie qui sont plus ou moins importantes à faire. Donc, quand on aura fait les études de sol, on verra bonne année.
Donc, qu'est-ce qui va se passer avec entre le rond-point de Rosnuval et puis la petite route là, qui part vers le Moustoir et toute la partie gauche là où il y a des stocks de caravanes et puis de...
Ça c'est une propriété privée.
Donc ça va rester à l'État on va essayer de faire en sorte que...
On essaye, mais c'est pas facile de faire enlever ces choses-là sur les...
On essaye déjà depuis de longs mois.
Ouais, donc c'est pas facile de faire enlever. Par contre, il y en aura aussi un trou d'eau un plan d'eau qui sera fait dans l'endroit où il y a les arbres là pour la rétention d'eau pluviale par rapport au carrefour pour pouvoir épurer un petit peu l'eau et la faire infiltrer.
Parce que là c'est quand même l'entrée principale.
Je suis d'accord avec vous.
C'est un peu dommage.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est un propriétaire privé, c'est pas si facile que ça. Sinon, je pense qu'il y a déjà quelqu'un l'aurait fait depuis les années que ça dure.
Et il n'est pas très facile en plus.
Ah, ça c'est. Je vous laisse parler.
D'autres remarques sur ce carrefour de Rosnuval ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. On passe donc directement au rapport.
Olivier, autorise à quitter le conseil.
Oui, je t'autorise. Merci. Monsieur Marc-Albert, approbation du schéma. Et c'est pas encore terminé, vous n'êtes pas encore en week-end. Approbation du schéma directeur des eaux pluviales.
Ah bon, je croyais c'est vous qui le faisiez, mais je vais le faire.
Non. Il n'y a rien aux eaux pluviales.
C'est lié.
25.
Le 25. Les communes doivent délimiter et approuver leur zonage d'assainissement des eaux pluviales après enquête publique. Donc, le conseil municipal du 24 juin 2017, adoptant le projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales, en date du 6 juin 2017, le projet de zone d'assainissement des eaux pluviales a été mis à l'enquête publique. Les conclusions et l'avis favorable du commissaire enquêteur. Des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits des écoulements des eaux pluviales et des ruissellements selon les zones qui sont concernées. Et donc, c'est l'actualisation du schéma directeur de l'établissement des zones d'assainissement qui a été confiée au cabinet Bourgois. Et donc, la commission de travaux a donné un avis favorable le 27 novembre 2017.
Il y a des questions sur ce schéma directeur des eaux pluviales. C'est évidemment éminemment technique. Et les cabinets compétents sont compétents, on l'espère.
Essayez.
Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? unanimité, je vous remercie. Monsieur Loïc Coudois, en l'absence de madame Thomas, la mise en réseau des bibliothèques médiathèques du territoire intercommunal.
Oui, donc dans son schéma directeur de la politique culturelle, la communauté de communes avait dressé un certain nombre d'actions. Trois d'entre elles portaient directement sur la lecture publique et sur la mise en réseau des médiathèques, bibliothèques du territoire. Je vais reprendre globalement les objectifs généraux qui sont présentés dans ce schéma directeur. Augmenter la fréquentation des bibliothèques et des médiathèques par la mise en réseau. Améliorer la qualité du service et des animations, favoriser la complémentarité de l'offre et l'accessibilité aux équipements, favoriser la circulation des usagers sur le territoire, mutualiser les coûts, améliorer la professionnalisation et diversifier et développer les événements culturels et renforcer l'animation dans les médiathèques. Donc là, ce qui est proposé au conseil municipal, c'est dans un premier temps d'intégrer le réseau des bibliothèques médiathèques d'ACTA, de participer au minimum et sous réserve de nécessité technique à l'acquisition d'un matériel informatique de base, donc qui comprend deux PC, une imprimante, une douchette et deux tablettes numériques à hauteur de 20% du reste à charge. En l'occurrence, donc, le coût de tout ce matériel est estimé à 1 900 euros et donc la part qui resterait à la commune serait de 228 euros. D'autoriser le personnel municipal à participer aux différents travaux qui seront menés dans le cadre du réseau de bibliothèques médiathèques et de participer activement à la co-construction du réseau. Je précise que donc seule la coordination et l'animation du réseau sont assurées par la communauté de communes et que par contre la gestion des bibliothèques médiathèques reste compétence communale.
Il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Dernier rapport purement communal, Monsieur Oudois, une demande de subvention à la DRAC.
Alors, donc, il s'agit de demandes de subvention effectivement à la DRAC et au Conseil départemental concernant le musée. En préambule, je vous demanderai juste de bien vouloir excuser les deux coquilles qui se sont glissées dans le bordereau. La première étant qu'il n'y a pas de montants qui sont indiqués en face de cette demande de subvention. Donc je vais vous les communiquer par oral. La deuxième, c'est que compte tenu du fait qu'il n'y a pas de montant, il n'y a pas non plus eu d'avis favorable de la commission des finances, puisqu'il n'y avait pas de montant précisé. Donc ces excuses étant faites, la proposition, donc les demandes de subvention auprès de la DRAC et du Conseil départemental portent sur l'inventaire récollement à hauteur de 77 722 euros et 38 centimes TTC, qui se répartissent en 6 882 euros 38 de frais de matériel et 70 840 euros de frais de personnel. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet de ces demandes de subvention concerne les actions culturelles hors scolaire pour 45 000 euros TTC, qui se répartissent en 7 000 euros pour des journées de médiation et d'événementiel, 2 000 euros pour des acquisitions ou réalisations de facsimilés et de matériel de visite, 14 000 euros pour adapter l'offre aux différents publics et notamment aux enfants et aux personnes en situation de handicap, 10 000 euros pour de la médiation numérique, notamment des vidéos, et 12 000 euros pour la promotion d'actions culturelles et notamment la réalisation d'un film promotionnel vantant le pass des mégalithes, donc film qu'on est en train de réaliser en concertation avec le Centre des Monuments Nationaux et la Compagnie des Ports du Morbihan. Les demandes donc portent sont à hauteur de 30% pour la DRAC et 30% au Conseil départemental pour ce qui concerne l'inventaire récollement et 20% DRAC et 20% Conseil départemental pour les actions culturelles hors scolaire.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette demande de subvention? En général, tout le monde est d'accord pour demander des subventions. Pas de vote contre? Pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Il se fait tard, je vous propose de très rapidement, puisqu'il ne s'agit que pour des rapports de 28 à 31, de prendre acte de la communication des rapports disponibles, hein, que ce soit pour... mais je vous incite vraiment enfin, à les consulter, à les lire avec attention. Ce sont des mines d'informations, hein, que ce soit pour la gestion des déchets ménagers et assimilés sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes, également pour l'eau potable et l'assainissement, et notamment dans ces rapports figurent des analyses sur la qualité des eaux qui vous sont donc délivrées dans vos domiciles, qui sont plutôt de bonne qualité sur le territoire de la commune, en tout cas pour ce qui concerne les herbicides, pesticides et fongicides. Un petit peu moins toujours pour le nitrate, où on a des taux de nitrate qui sont quand même, qui restent encore élevés, enfin, heureusement très très éloignés de ceux du nord de la Bretagne, mais on est toujours au-dessus des 20 mg par litre. Et puis pour Morbihan Énergie également, des documents qui sont très intéressants sur l'électrification et l'énergie distribuée dans le département. Et enfin, un domaine dans lequel il va être amené à évoluer dans le cadre des fusions entre syndicats, le rapport du syndicat mixte du Loc et du Sal auquel la commune est rattachée, puisque nous sommes sur le bassin versant, pour les rapports d'activité 2016. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur ces différents rapports. Encore une fois, ils sont à votre disposition et consultables. On peut même vous communiquer, si ce n'est pas en trop grand nombre, des versions papier, c'est possible. Même si, voilà, mais en tout cas, ils vous sont communicables et je vous invite très chaleureusement à en prendre connaissance. Encore une fois, c'est vraiment une mine d'informations sur beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a des questions sur ces différents rapports ? Je vous propose de voter en une fois la prise en compte de leur communication. Donc je vous remercie. S'il n'y a pas de vote contre, s'il n'y a pas d'abstention, ces rapports sont adoptés à l'unanimité. Et comme il n'y a ni questions diverses ni questions orales, il me reste à vous souhaiter à tous un bon week-end. Madame Magard.
Je voudrais juste intervenir. Je ne veux pas reprendre une polémique, mais vous faire une petite remarque, si vous permettez, monsieur le maire. Vous êtes intervenu assez vivement envers monsieur de Repère sur sa remarque amusée de monsieur Lejean, qui le prenait très bien. Tout de suite, là, vous devenez assez vif. Et je trouve que, parfois, vous aussi, et même souvent, par exemple, dire ce soir à madame Le Golvan, rendez-vous compte, madame Le Golvan, de l'absurdité de ce que vous dites, est assez désobligeant. Donc, je pense qu'on a tous des efforts à faire dans ce domaine-là.
Mais je vous le confirme, j'ai moi aussi des efforts à faire, mais j'essaierai d'en faire à l'avenir. Voilà.